Et Adgroup, vous êtes sur Slack qu'on parle de la prochaine émission?
Ouais.
Où sont les autres?
Mélissa est en date, Sylvain est en voyage, Daz rentre du boulot dans sa voiture, entre parenthèses, stalk.
Ok, tu peux le ramener s'il te plaît?
Daz, t'es dispo pour parler de l'émission sur Slack?
Mélissa, Sylvain, venez sur Slack, Réu.
Dis Siri, envoie un texto à Fibre, je suis en voiture là, je peux pas Slack.
Daz me répond par SMS qu'il peut pas slock.
Bah comment il peut SMS alors?
Comment tu peux SMS mec?
Dis Siri, envoie un texto à Fibre via Siri.
Il dit via Siri. Eh, ça marche pas mal Siri, j'aurais pas cru.
Yo les amis, je suis sur l'ordi de l'auberge en Laponie, pas de Slack possible non plus. Skype possible cordialement.
Sylvain peut pas non plus par Slack mais par Skype. On tente, tu demandes à Daz?
Daz, tu peux Skype, Sylvain vieux, peut bah, via Skype.
Dis Siri, envoie un texto à Fibre. Ok, si je peux lancer Skype via Siri.
Ok, je suis sur Skype mais j'ai pas vos contacts, j'ai arrêté d'utiliser Skype avant même de vous connaître les gars, cordialement.
À tous, envoyez vos contacts Sky en reply all.
Salut les loulous, bon, bah, date de merde, alors bossons sur Slack.
Mélissa, en fait, on va sur Skype pour Daz et Sylvain.
Ah, ok. Je lance l'appel, je vous ai tous ajoutés.
C'est bon, je te vois.
C'est bon, je te vois.
Je te vois.
C'est limite si je vous entends.
Ah, désolé, j'ai pas de bande passante, on doit passer en audio.
Ah, le relou de Sylvain. Ok, on va passer en audio.
Ok.
Ok. Okay.
C'est bon, je vous entends, mais mal, Daz, tu en quittes main libre.
Affirmative, Commander.
On t'entend pas,
on
mec.
T'entend pas. On t'entend pas.
Bon, sinon, on passe sur le chat de Skype.
Je peux pas, ça marche pas avec Siri.
Bon, Daz, tu veux pas t'arrêter un peu sur une aire d'autoroute?
Bah, t'inquiète, je suis près de chez toi, j'arrive.
Bon, voilà, tout le monde, rendez-vous chez moi pour ceux qui peuvent, et pour le reste, on fait ça sur Skype Audio. Bon, du coup, Sylvain, je te mets au parfum pour l'émission, on va inviter Cyprien.
Ah, énorme, une émission YouTubeur.
Pas forcément, je vais d'abord en parler aux autres. Attends, il y a Fibre qui arrive.
Hey, bonjour.
Yo, mon petit Fibre, je vais briefer Sylvain sur Skype pour l'inviter du mois prochain.
Alors, je suis très content qu'on fasse une émission avec Cyprien, parce qu'il y a beaucoup de followers.
Et... Vous avez le code de chez l'âme? Vous avez le code de chez l'âme? Vous avez le code de chez l'âme?
Dis Siri, le code de l'âme, c'est 24B94.
Ok, je le mets sur Slack pour que les autres ne galèrent pas. Code de chez l'âme, 24B94.
On peut pas tenter un FaceTime audio, c'est meilleur au niveau qualité de son quand même.
Je demande. Daz propose un FaceTime audio. Go.
Je peux pas, je suis sous Android, les gars.
Putain, le relou.
Bon, Sylvain, il dit qu'il peut pas, il est sous Android.
Oh, le relou.
Oh, le relou.
Alors, je vous propose de discuter sur Slack de l'émission spéciale YouTubeur et on retranscrit par Skype à Sylvain et par SMS à Daz.
Ok, je vais aller demander sur Twitter ce que les gens en pensent. Tu es youtubeur, star, média personnel, CM, businessman, DM-moi, please RT.
Ah, at Mélissa, la journaliste qui fait ses micro-trottoirs sur Twitter. Emoji, main qui applaudissent, hashtag journalims.
At Mélissa, hashtag méthode agile, hashtag média du futur.
Hashtag interview mode temps de 360.
Daz, je te snap pour te dire que tu viens de répondre sur Twitter, tu es grillé que t'es pas dans ta voiture, mec.
Coucou Fibre, comme tu peux le voir, je fais le plein d'essence, mais je suis pas loin.
Tu parles à qui la Fibre?
En fait, je vous mettais tous sur Story Snap.
Bon, est-ce qu'on peut recentrer le débat, s'il vous plaît, là?
Studio 404, l'âme signe la fin de la récré.
C'est parce qu'il peut pas répondre sur Twitter, il est vénère.
Daz a aimé ce tweet.
Sylvain a aimé ce tweet. Du coup, je peux pas trop tarder, là, parce que je squatte l'ordi de l'hôtel et...
Bon, il se passe quoi, là? Ils font chier, là. Fibre, pose ce téléphone au sol.
Coucou, je suis arrivé.
Ah, ok, bon, j'en ai deux, il m'en reste deux, on ne désespère pas. Alors... Cette rue, Daz via SMS, Sylvain via Skype, Fibre sur Snapchat, Mélissa IRL, on est ok?
Ok.
Donc on aborde les youtubeurs et surtout les nouveaux comportements qui induisent chez nous et...
Bon, je suis désolé, j'ai plus de batterie à force de Snapchatter.
Je suis bloqué dans le tunnel, plus de réseau.
Je suis super désolé mais je dois laisser l'ordi, il y a une queue de 10 mètres de touristes énervés derrière moi.
Ouais, il y a ma date qui me relance sur Tinder, là on fait quoi du coup?
Ok, laissez tomber, on en reparlera plus tard.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique.
Studio 404, présenté par l'âme UA.
Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes ensemble pour un dimanche ensoleillé, un dimanche de brunch au Tank, avec un record d'affluence. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a promis des choses, les amis, ou pas?
J'ai pas souvenir.
De la nourriture.
De la nourriture, voilà, c'est ça. En tout cas, vous êtes très nombreux avec nous autant que chez nos partenaires du temps qu'aujourd'hui. On est très contents pour cette émission. Vous l'avez deviné grâce à notre intro spéciale Collector Director's Cut. C'est notre émission spéciale discussion. On va en parler ensemble. Évidemment, vous aurez des questions à poser. On pourra en débattre. Il y aura des FAQ. Et je suis, bien sûr, avec mes 5 partenaires, mon réalisateur Ghislain et nos 4 chroniqueurs. Comment ça va, cher chroniqueur Fibre? Comment ça va?
Je reviens de province et il y avait des animaux vivants et j'ai une petite allergie, donc ma voix n'est pas aussi souriante que d'habitude.
On reconnaît le provincial qui est venu sur Paris parce qu'il rejette le fait qu'il était provincial quand même.
Non, mais je les aime beaucoup, ils sont authentiques.
Voilà, on a commencé à se faire des amis très très vite. Mélissa, comment ça va?
Salut, moi je viens de banlieue, pas de province.
C'est vrai?
Ouais.
Et t'assumes que tu viens de banlieue, t'es comme Fibre, tu fais
ouais,
genre...
Ouais, j'assume super bien.
Très bien. Et de l'autre côté de la banlieue, il y a Daz.
La même banlieue que Mélissa, normalement.
Ouais. Ah, c'est vrai.
9-4. Non, ça va très bien. Moi, j'ai marié mon petit frère hier, donc je suis super content.
Ah bah ça, c'est fait.
Félicitations.
Ah. Félicitations.
Bah, c'est pas pour moi.
Hein. Tu passeras le message. Et enfin, Sylvain, comment ça va?
Super bien.
C'est vrai?
Ouais. J'étais malade la semaine dernière et là, je suis en pleine forme.
De retour de Laponie?
Ouais, de retour de Laponie.
C'était beau, c'était des belles photos en tout cas.
Merci.
Bon, on va donc partir sur cette première émission spéciale discussion. Et le premier sujet, c'est Mélissa qui ouvre.
Sujet numéro 1.
Quand la discussion est si explosée, comment recoller les morceaux?
Alors, on va parler d'un des thèmes principaux, celui qui a animé notre réunion de rédaction, parce que au-delà du gag, on a réussi à faire des réunions de rédaction quand même, on a réussi à discuter, sur cette fameuse manière de discuter aujourd'hui sur Internet qui est complètement explosée entre différents moyens.
Tout à fait. Je vais commencer par faire les comptes, ça va être fun. Alors par exemple, pour discuter avec mes collègues, j'utilise les mails, donc Slack, Twitter, Facebook, le téléphone, texto, et les appels vraiment en dernier recours, Fib nous en parlera plus tard. Ça fait donc 7 moyens de communication. Pour mes potes, j'en ai 6, pour mes parents, j'en ai 3, et je vous passe les emails, les coups de téléphone qui disent « Tu as lu le mail sur comment mensualiser tes impôts, régler ton assurance, changer ton chauffe-eau ?» Voilà. Et du coup, on s'est demandé, mais comment on en est arrivé là? Comment on n'a pas pété un câble avant? Et bah, tout a commencé en 2009. J'avais mon premier smartphone. Je sais pas si vous en avez déjà un à l'époque. Et en fait, ma vie a changé vraiment du jour au lendemain. Parce que tous mes moyens de communication se sont réunis en un seul outil. Je pouvais enfin prendre une photo de mec et la poster directement sur Twitter. Du coup, je l'ai forcément pas vécu comme une invasion. Donc, ça m'a fait gagner un temps fou et j'ai pas du tout eu l'impression d'avoir plein de choses qui arrivaient sur moi. Toutes ces notifications Twitter, Facebook et tous mes mails. Et donc, aujourd'hui, ça peut amener à des situations comme, voilà, on a un dimanche matin. Il y a Daz, Fibre, Sylvain et moi qui discutent sur Twitter, et là on va exiger une réponse de toi, Lame, pour le rendez-vous sur la réunion, la fameuse réunion qui va avoir lieu. Donc on doit se voir, Fibre poste une photo de laverie sur Twitter, moi je dis que je fais mon jogging sur Twitter, on check tout sur Slack pour voir si Lame a daigné répondre, il a pas répondu, on le poke sur Twitter avant de se dire que jamais on aura une reply de Lame sur Twitter vu qu'il ne répond jamais sur Twitter. Du coup Daz va aller le harceler sur Slack, Wifiner va pas nous répondre pour qu'on se donne rendez-vous via Slack, on a fini par se voir à 14h. L'âme aurait pu nous le dire, ça aurait pris une ligne et ça s'est étalé sur 2 heures, voilà. Ça, c'est notre vie d'aujourd'hui. Notre vie, en fait, est devenue un jeu de pistes géant auquel on adore participer. Donc, de ce dimanche matin-là, ça nous a fait rire, on a continué à se répondre, à part Fibre qui suait à l'idée de ne pas accomplir ses 24 tâches de la journée. Pour tout ça, pour vous dire que donc c'est le gros bordel et on le vit très très bien. Comme dans nos vies, en fait, on s'est habitué à zapper nos onglets, nos loisirs, nos boulots, nos mecs, nos meufs. Et donc là, c'est le moment où l'agence Studio 404 doit reprendre du service.
Ah,
vous vous souvenez de Criseo après les attentats? Et maintenant, nous allons inventer un nouveau service, les amis. Donc faisons une petite presse pour essayer de sauver notre temps de cerveau disponible. En fait, moi, ma méthode actuelle, c'est que j'essaye d'optimiser à mort. C'est-à-dire que j'essaye d'avoir un canal par personne. Donc vous, par exemple, vous êtes Slack. Sauf que des fois, il y a Daz qui va venir me faire chier sur Twitter parce que forcément, il a lu Slate, il est pas content.
À ton service.
Et donc là, par exemple, je vais être ajouté à une discussion Facebook avec des amis avec qui d'habitude je discute par texto. Et genre, je le vis vraiment pas bien du tout. Le problème, c'est comme il y a une meuf qui est seulement sur Facebook, et je suis obligée de rester dans cette conversation sur Facebook.
Voilà.
Et donc, slide 2, la solution Studio 404 sur mesure.
Aha.
Donc après Criseo, nous avons inventé un nouveau service innovant disruptif. Laissez-moi vous présenter Optiméo.
Oh, c'est beau.
Bienvenue sur Optiméo. Ce service pourrait changer votre quotidien durablement en vous disant ce qui consomme tout votre temps de cerveau. Donc de la même manière que vous checkez souvent allègrement le stockage disponible sur votre smartphone en disant « Putain, c'est quoi cette appli qui me prend toute la place ?» Donc il peut y avoir une vidéo de Chamillon ou Facebook ou une sextape, on sait jamais. Et bah Optiméo vous dirait établir un petit bilan des services sur lesquels les discussions sont résolues le plus vite. Aha. Vous notifierez si quelqu'un vous interpelle sur l'un des réseaux sur lequel vous n'êtes pas et publierait une réponse toute faite en lui indiquant d'aller continuer la discussion là où elle a commencé. Et une intelligence artificielle noterait l'absence de réponse et vous rappellerait après un temps prédéterminé par vous la réponse la plus rapide à donner et vous proposerait une réponse toute faite.
C'est un peu compliqué quand même tout ça.
Exemple.
Un peu complexé, hein.
Waouh.
L'âme, sexuellement, dans une discussion sur Slack avec Daz, Mélissa, Sylvain, Fibre. Ils viennent de vous parler sur Twitter. Je vous conseille de répondre avec un horaire sur Slack. Tu vois, là, tu nous aurais répondu.
D'accord.
Voilà. Mélissa, vous échangez actuellement des DM avec votre chef. Il vous répond habituellement beaucoup mieux par mail. Préférez ce moyen. Fibre, allez plutôt parler à Mélissa sur Slack. Elle n'est pas sur Snapchat. Donc Optimeo sera en fait synchronisé avec nos mails, textos, comptes sur les réseaux sociaux, calendrier, et vous permettrait en fait de classer toutes les notifications. Donc en fait on aurait les textos et les trucs importants avant et tout le reste ensuite.
Peu, ouais, un peu comme les petites opératrices, les petites dames du téléphone.
Voilà, et
quoi.
Ça nous permettrait de faver des choses qu'on veut pas oublier pour éviter d'avoir à reconfirmer des rendez-vous. Genre est-ce qu'on fait vraiment tout ça ? Enfin je sais pas vous, mais moi genre le nombre de textos que j'envoie en disant genre c'est toujours bon pour ce soir parce qu'en fait on a oublié parce que sur Slack en fait il y a eu 12 blagues de Daz ou de Fibre entre les deux et donc on n'est pas sûr que c'est 14h, 14h30 ou le lundi ou le vendredi. Et donc ce service magnifique est forcément disponible sur desktop. Appli consultable offline. Tout ça pourrait nous permettre de gagner 2 ans de vie. Le devis est à 25 000 euros.
Ah ouais. Voilà. Est-ce que c'est
pas
discutable
cher.
Quoi ?
Est-ce que c'est discutable ce
le devis, je sais pas. On peut négocier, mais franchement, moi, mes 2 ans de vie, je les veux. Quoi.
Merci Mélissa, on peut applaudir.
Pardon.
Est-ce que vous achetez Optimeo, quoi ?
Ah, c'est pas fini ?
Ah, si, si.
Ah, j'ai eu peur. Alors, Mélissa, tu discutes avec beaucoup de gens avec beaucoup de moyens différents. Est-ce que vous vous retrouvez un petit peu là-dedans, chers camarades ? Est-ce que vous vous retrouvez à avoir des discussions avec des bouts de groupe, dans des bouts d'app et de moyens ? Sylvain ?
Grave, tout le temps.
Tout le temps ?
Ouais.
Et est-ce que, comme Mélissa, d'une certaine manière, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, tu t'y retrouves finalement ? On arrive tous à se retrouver un peu dans les bouts de discussion fragmentés qu'on a droit à gauche.
Bizarrement, tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir besoin d'Optimeo. J'ai l'impression que mon cerveau arrive à faire les connexions tout seul en fait.
D'accord.
Et se rappelle de où j'ai parlé à ce type, où a commencé la discussion, où elle s'est continuée. Il m'arrive quelquefois très très rarement de me dire ah mais ce type m'avait envoyé un lien et je sais plus du tout si c'est sur Gtalk, si c'est sur machin, etc.
D'accord.
Donc, peut-être un moteur de recherche, ça pourrait être utile. Ouais.
Daz?
Ouais non pareil. J'ai pas trop de soucis à m'y retrouver en fait.
Mais est-ce que tu as des conversations aussi explosées?
Ouais bien sûr, éclatées sur plein de modes différents, mais souvent avec les mêmes personnes. Donc c'est vrai que ça permet de cibler le moyen en fait.
Ouais.
Mais j'ai pas. Enfin ton appli là c'est un cauchemar en fait. C'est-à-dire qu'il faudrait donner accès à tout.
Bah
tout,
oui, mais attends, le nombre de trucs que t'as en Facebook Connect, Twitter Connect, là, c'est la même chose.
Ouais, non, mais là, l'appli, elle te dit carrément si c'est pas mieux de passer par tel média pour répondre à telle personne, parce que... C'est-à-dire qu'elle a analysé les échanges précédents et tout. C'est flippant.
Big Brother.
Ouais, mais journalisme, quoi. Je comprends pas que tu acceptes ça. Bon.
T'as autorisé les choses.
Fibre.
Alors, je dirais pas chronique criminelle, comme j'ai dit une fois, je dirais chronique dangereuse. Parce
pourquoi
que, alors, je trouve que c'est grave parce que, comment dire, avant les anciens, les Grecs, ils avaient déterminé qu'il y avait 7 formes d'amour. Aujourd'hui, on va dire, il y a l'amitié, l'amour, l'amour filial, etc. Et je trouve que.
Où est-ce qu'il va en venir, fait, à votre avis ?
Ouais. Et, voilà, où est-ce
ça
qu'on
va
en venir
longtemps, c'est ça que, va durer longtemps.
Non, mais c'est qu'aujourd'hui, nos échanges sur Internet, c'est pas simplement des échanges. Il y a 50 nuances d'échanges et chaque support. Non, mais chaque support
pas
permet.
Mal.
Chaque support permet un échange différent. Je prends un exemple de Twitter.
D'accord.
Souvent, là, mais moi, on nous a fait le reproche. Mais mec, vous discutez pas sur Twitter. Mais Twitter, c'est du micro-blogging. C'est du blogging. C'est-à-dire, tu publies un truc. T'es pas censé, c'est pas le café du commerce. D'ailleurs, il n'y a pas l'espace de liberté pour ça. Et donc, aujourd'hui, on discute sur plusieurs outils. Mais ces outils sont réduits. C'est-à-dire que il n'y a pas Snapchat et le concurrent de Snapchat. Il y a juste Snapchat. Donc, mais ces outils survivent parce qu'ils ont tous une façon de communiquer qui est différente. Et aujourd'hui, ben, vous n'allez pas faire du cybersexe forcément en public sur Twitter. Vous n'allez pas forcément envoyer des SMS pour parler d'une actualité, l'actualité de Slate ou je sais pas quoi. Et donc, on a tous ces moyens de communication. Ils sont tous essentiels. Simplement, il faut qu'on ait l'intelligence de tous les utiliser à bon escient. Voilà. Et ils sont tous nécessaires. Et d'ailleurs, on se dit malgré nous, tiens, j'ai quasiment une personne, un groupe de personnes sur WhatsApp, un groupe de personnes sur Telegram, un groupe de personnes sur Snapchat, un groupe de personnes sur Twitter. Mais parce que ces personnes-là, ils ont une façon de communiquer avec vous qui est unique. Et souvent, c'est des strates professionnelles qui sont différentes. Et Optimeo, c'est une sorte de Adolf Hitler qui dit on veut juste une façon de communiquer
qui sera comme avant.
Non, c'est bien, 13 minutes pour arriver au point Godwin.
Ah, ah, voilà, dans les temps. C'est un petit point Godwin, ouais, de rien du
tout. Il y en aura des plus gros après. Okay.
Mais Mélissa, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas criminel, peut-être, c'est juste dangereux d'après film.
Non, mais c'est vrai que c'est allé un peu loin, mais en fait, on.
Un tout petit peu.
Fallait aller trop loin. Mais en fait, on a appris en fait à utiliser chaque réseau en fonction des bonnes pratiques. Par exemple, moi, je vais envoyer des mails pro la journée, en fait, des DM le soir à mon chef, alors que je serai sur JTalk avec lui toute la journée. Enfin, en fait, en fonction du moment et du message, on change de plateforme de communication et on s'est vraiment habitué à ça.
Ça veut dire qu'en fait, on a une matrice à plusieurs entrées, c'est-à-dire que suivant le moment, le médium, la personne, la nature du sujet ou l'importance du sujet, on a toujours une sorte de... on a une intersection, on va prendre un moyen spécifique à chaque fois.
Tu travailles avec un collaborateur, t'as envie de lui demander un truc, mais gentiment, tu vois. Et avant, t'avais juste le téléphone et ça pouvait être agressif. Aujourd'hui, tu peux lui dire, bah voilà, je lui envoie un petit DM Twitter, il checkera dans deux jours et ce sera tranquille. C'est génial d'avoir cette possibilité, mais il faut la comprendre et il faut l'utiliser...
alors que le mail, ça se trouve, tu vas envoyer un mail avec 12 paras et c'est le truc plus formel et tout, alors que le DM, c'est genre, tu peux
avec
juste envoyer un lien
à la fin, comme toi,
tu peux juste envoyer un lien et puis genre, ça, voilà, regarde quoi.
En fait, c'est marrant parce qu'il y a un type qui, il y a plusieurs années, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Médium et le Message. Il s'appelle Marshall McLuhan et c'est exactement ce que vous êtes en train de dire.
C'est un blogueur, non?
C'est un blogueur,
c'est un blogueur.
Un blogueur influent, c'est un pote de Loïc Lemaire. Et en fait, il expliquait que, en fonction du média qu'on utilisait pour communiquer, et ben, ça influençait la nature du message. Donc effectivement, je vais envoyer un DM, en fait, en utilisant le média DM, ça va déjà vouloir dire quelque chose en plus du contenu qu'il y a dans mon message.
Mais est-ce que McLuhan, justement, avait prévu qu'il y aurait une telle multitude? Je vais juste en faire une main levée dans le public. De tous les médias et outils que Mélissa utilise, lesquels d'entre vous utilisent, on va dire, plus de 3 médias pour communiquer globalement avec le boulot? Ok, donc 100%. Plus de 5, on va dire 5, donc mail, DM, Facebook.
Téléphone.
Non, mais c'est vrai, tout ça.
Correspondance écrite.
Ok, les 2/3. Donc, est-ce que McLuhan aurait, à l'époque.
Non, McLuhan aurait pété un câble, je pense.
Très bien. Et alors, deuxième question aussi, on en revient à ce que McLuhan n'aurait pas prévu, mais un point intéressant de ce que dit Mélissa, c'est que, d'une certaine manière, le smartphone ou l'outil qu'on utilise a un peu unifié tout ça. Ça veut dire qu'on a plein d'outils, mais qu'à la fin, ça arrive de manière formatée. C'est une notification ou c'est quelque chose. Et on a beau lancer une application différente, on se retrouve parce qu'il y a une sorte de terrain commun qui est cet écran et une sorte de langage graphique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça sur le fait que ça n'avait pas le téléphone et qu'en fait, on avait un outil qui était le téléphone, puis le smartphone, pardon, et qu'on avait un outil dédié, l'ordinateur portable et le téléphone normal et plein d'outils, ça aurait été pas possible. Est-ce que le fait qu'on ait un outil
on aurait tous utilisé des SMS, en fait. Je pense que c'est le côté mobile qui fait qu'on utilise principalement les applications qui sont dispo sur nos portables. Et c'est pour ça que à ce niveau-là, tout ce qui est instant messaging, c'est de base mobile. Après, tu l'utilises aussi sur ton laptop. Mais je pense que Facebook Messenger, WhatsApp, il y a pas sur laptop de WhatsApp de toute façon.
C'est plus
que sur mobile. Mais Facebook Messenger, Google Hangout, etc. Moi, je les utilise principalement sur mobile.
Ouais, mais Sylvain, t'es pas d'accord.
Ouais, je trouve qu'on a eu vachement de mal à s'habituer au fait qu'il y ait des applications qui sortent, qui soient mobile only en fait. Et moi j'ai encore des proches, des personnes un petit peu peut-être des générations au-dessus de nous, qui ne comprennent pas pourquoi cette application elle n'existe pas sur l'ordinateur. C'est pas normal que ce soit juste sur téléphone, parce que normalement c'est l'inverse, ça sort d'abord sur un ordinateur et ensuite sur mobile.
Ah non, les SMS c'est strictement mobile.
Ok pour les SMS.
Non mais et okay, du coup WhatsApp c'est aussi strictement mobile puisque ça utilise ton numéro de téléphone.
Je sais pas, depuis qu'ils ont été rachetés par Facebook, il y a un client desktop, je sais pas.
Non, il y a Messenger.
Telegram, qui est le concurrent de WhatsApp, en tout cas, il est sur PC.
Il est sur PC aussi.
Mais moi, je stick, je reste un peu sur ma lancée. Non, mais je rejoins aussi Sylvain. C'est-à-dire que le smartphone, c'est pas la solution qui condense tous les médias, puisque Slack, je pense qu'on l'utilise tous majoritairement sur un PC.
Oui.
Ouais. Voilà. Non, mais sur mobile. Non,
ouais, mais en majorité, enfin, la plupart du temps, c'est sur.
Moi, c'est bloqué. Hein, c'est bloqué à la Cogip, donc c'est sur mobile.
Et dernière question qui n'était pas dans ta chronique, mais c'était un point intéressant. Sylvain avait fait remonter ce point sur un de ses posts Facebook, donc on avait réagi sur Facebook et maintenant on en parle en vrai et on tweetera la chose. Une consultante parlait justement de l'avenir de la discussion et disait aujourd'hui on se dit plus au revoir et bonjour parce qu'en fait les chats sont tellement omniprésents et on continue dans nos vies que déjà par mail on commence à se dire heureux pour répondre, même si c'était 2 jours plus tard, et qu'aujourd'hui effectivement nous par exemple sur Slack on se rend compte qu'on a des discussions et que le matin quand quelqu'un intervient, on répond à quelque chose qui a été posté la veille. Il n'y a pas de bonjour, comment allez-vous? Et on se dit plus même bonsoir le soir. En fait, les discussions peuvent s'arrêter. On peut disparaître même 2 semaines. Et quand on revient, en fait, il y a plus de notion de segmentation. Est-ce que vous, comment vous le voyez vous ça? Vous êtes d'accord là-dessus ou pas?
Ah ouais, c'est vrai que à l'époque sur MSN, on se disait bonne nuit encore, et je pense qu'aujourd'hui, on se dit plus du tout bonne nuit, quoi.
C'est moche.
Tu disais bonne nuit sur MSN.
J'ai jamais dit bonne nuit sur MSN.
BN quoi. Bah BN, BN. J'ai mat à 8h demain. BN.
C'est vrai que sur
BN Hall quoi.
C'est vrai qu'on disait BN et GN sur IRC et les vieux chats.
Non mais oui, ça tu le dis en fait quand.
Et quand on arrive sur le channel, on disait hi, etc.
Non mais tu le dis quand tu quittes un espace de discussion, c'est-à-dire quand tu quittes un channel IRC. Effectivement, tu dis bon, bah, je me casse, salut. Ouais.
Par mais contre, non, on le fait pas
Slack, mais Slack, tu quittes plus et t'es connecté tout le temps, en fait. Même
oui,
quand
mais
t'es
même
pas devant.
Quand on s'envoie un SMS ou quand t'as une conversation par mail et que même, maintenant, quand les gens répondent par mail, leur première réponse, ou dans les fameuses, qui n'a pas fait les fameuses discussions de cadeaux groupés sur Facebook Messenger, il n'y a pas de bonjour, merci de m'avoir ajouté. Alors moi, je pense qu'il faudrait faire une canette litchi. En fait, on répond directement, il n'y a même plus de bonjour, au revoir, quoi.
Et parce qu'il y en a tellement, mm-hmm. aujourd'hui, on en a tellement que si, enfin, on n'a plus le temps de dire bonjour, au revoir.
Par message instantané,
les gens sont habitués.
Par mail, moi, je suis pas d'accord.
Toujours bonne nuit par mail.
Toujours. Ouais. Non mais en tout cas, j'ai toujours bonjour ou cher machin ou tu vois.
D'accord.
Tu t'attaques pas comme ça.
Par cher machin.
Je suis obligé moi. Ah, okay. Tout le monde commence par dire quelque chose.
Cordialement.
Ou good morning, good afternoon.
Fibre, toi qui travaille beaucoup à distance, est-ce que tu as toujours ces méthodes parce que t'es dans un flot continu de discussion.
Par rapport à ta consultante, je pense qu'elle a un bon constat, mais elle a une mauvaise conclusion. Parce qu'aujourd'hui, on dit pas bonjour et au revoir, parce que c'est complètement ringard.
Non, mais la notion de salutation.
Non, mais t'arrives sur Twitter, tu dis bonjour, point. Changement, tu mets le malaise, quoi.
Après, tu dis je suis Fibre Tigre.
c'est parce que tu faisais justement, et c'était une forme d'ironie en disant bonsoir, c'était Fibre Tigre.
Mais ce qui était drôle, c'est que je t'appelais Fibre Tigre et marqué Fibre Tigre partout et tout ça. C'était évidemment pour faire le clown. Oui. Mais par contre, je dis bonne nuit tous les soirs sur Snapchat, par exemple.
Oh. À qui ?
À tout le monde.
À tout le monde.
À tout le monde.
Ah oui, je suis pas sur Snapchat.
Et je dis bonjour tous les jours à tout le monde sur Snapchat. Mais c'est parce qu'il y a une proximité. Parce que le support permet cette proximité.
Tu ne dis jamais bonne nuit.
C'est pour ça que je suis pas sur Snapchat. Slack, on est en continu. Mais une fois de plus, c'est chaque support un usage. Voilà. Et aussi après, il y a une sémantique bonjour. Voilà. Puis il y a la ponctuation, c'est encore autre chose.
Donc on est plus poli sur Snapchat que sur d'autres supports.
Mais ça veut surtout dire
ah non, ça veut rien dire. Il y a une proximité, c'est-à-dire que enfin, c'est naturel de dire bonne nuit à des gens, voilà, parce que t'es quasiment dans la même pièce qu'eux. T'es sur Slack, il y a une ambiance bureau. Quoi ?
T'es dans ton lit quand tu fais tes snaps.
Et bah, tu vois.
Non mais par contre, Fibre, tu n'utilises pas Snapchat depuis 10 ans.
Non.
Donc avant, t'étais mal élevé.
J'ai l'impression, mais quoi ?
Avant, t'étais mal élevé, t'étais mal poli. C'est ça que tu veux dire ?
Non, mais ça n'était pas propice. Voilà, c'est la proximité du médium qui fait que tu dis bonjour.
Donc tu pourras dire Snapchat m'a aidé à dire bonjour et au revoir.
Mais ça m'a pas aidé.
Il est en train de te piéger,
Non, je le fais parce que c'est comme ça.
Il y va.
Ça se dégage naturellement.
Ok.
Si demain il y a le. Parce qu'on a parlé beaucoup de nazis, si il y a le réseau social des nazis, et qu'il faut être vraiment hyper méchant, bah tu dirais que des choses méchantes, tu vois. Gérard, c'est le support qui fait ça. D'ailleurs, c'est une super idée, je trouve. Pas d'enculé.
Bon, bah on fera, ça s'appelle Twitter, ça.
Voilà, on inventera la start-up Heil Eo. Ouais. Voilà. Très, très sympathique. Bon, allez, on arrête de débattre, maintenant, et on va passer la parole à notre audience, à notre public qui est là. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont reconnus, qui ne sont pas d'accord sur ces usages qu'on fait complètement fragmenter et exploser? Mais d'une certaine manière qui arrive à trouver une continuité. Est-ce qu'il y a des gens qui ici discutent? Alors mademoiselle, oui, on va vous passer le micro. Ou qui veulent juste insulter Fibre?
Ouais.
C'est tout à fait possible.
Ça peut aussi être une thérapie de groupe. Bonjour.
Bonjour. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que c'est une question d'usage. Je fragmente pas par personne, mais vraiment par usage. C'est-à-dire que j'ai atteint un point où ça m'est déjà arrivé de m'engueuler vraiment très très violemment par mail avec quelqu'un, tout en continuant à envoyer plein de blagues sur un groupe Facebook. Mais vraiment avec une histoire assez lourde, des problèmes d'argent et tout ça. Mais en continuant à balancer des liens rigolos sur notre groupe de discussion commun. Parce qu'il y avait l'usage de la messagerie Facebook, c'est quelque chose de très instantané, très léger, en fait. Alors quand tout ce qui passe par mail, on est sur des choses beaucoup plus formatées.
Et du coup, d'ailleurs, on peut rebondir dessus. Est-ce que, d'une certaine manière, on peut trouver aussi des complémentarités entre des moyens de communication et de se dire ça me fait du bien de raconter de la merde sur Facebook pendant que je me prends la tête par mail.
Totalement.
Est-ce que t'as récupéré ton argent? Non, parce que moi ça me fait
déjà,
bizarre.
Déjà tu dis bonjour.
Non, mais oui, bonjour.
Et après, bonjour.
Et après
tu dis
Snapchat.
Après tu dis bonne nuit après. Ok.
Non mais ça c'est bizarre parce que je sais pas si j'étais à la place de l'interlocuteur, me faire engueuler par mail et te voir poster ensuite des blagues sur Facebook, je sais pas si je prendrais l'engueulade au sérieux ou. Ouais.
Alors en fait, ça s'est réglé en vrai.
Et voilà.
Et la solution.
Qui est l'ultime moyen de communication quand même. Voilà. Une bonne baffe, hein, je veux dire. Bon. Très bien, c'était très intéressant du coup cette petite complémentarité entre les deux. Et d'ailleurs, il y a un autre sujet qui effectivement on peut en parler, c'est les gens qui ne répondent pas et qui du coup n'osent pas les répondre sur d'autres moyens parce qu'ils vont se faire griller quoi. Mais bon, ça c'est
grave.
Si c'est déjà arrivé à quelques d'entre vous.
Tout le monde.
Est-ce qu'il y a une autre personne en public qui voulait réagir par rapport à cette discussion? Oui, monsieur, on va passer le micro juste. Alors, hop, ouais. Bonjour.
Bonjour, Alexis. C'était sur la notion du portable qui avait permis de tout
unifier.
Je suis pas totalement d'accord. Mm-hmm. Avant sur MSN, on parlait, le soir on fermait, il y avait plus de canaux de discussion possible, on était coupé du monde. Et aujourd'hui, je pense que le portable, en fait, il permet de continuer cette expérience. Et il y a une application sur Chrome pour faire du WhatsApp justement.
Ah voilà.
Et voilà, moi j'utilise en fait le portable juste en mobilité et j'essaye de maximiser l'expérience la plus simple possible. Et donc plutôt que d'avoir mon ordi de boulot et à côté le WhatsApp et de faire des allers-retours qui sont contre-productifs, je maximise ce qui est le plus facile, donc je tape sur le clavier et puis en mobilité je continue tous les autres parce que finalement c'est les mêmes usages, enfin c'est les mêmes outils qu'on retrouve sur le PC ou sur le
téléphone. Alors pour vous le smartphone c'est vraiment c'est une dépendance, c'est un usage complémentaire et le
ouais, voilà,
c'est une manière sédentaire.
C'est le métro, c'est avant d'aller se coucher, c'est le matin,
c'est tout le temps.
C'est sauf au bureau, mais j'ai vraiment le portable. Je suis, c'est un peu comme, pas comme une agression, mais le clavier tout petit ou la petite fenêtre. Je préfère être posé à mon bureau avec mon clavier, l'écran, pouvoir même avoir.
Tu es développeur?
Non.
Dommage. Non, parce que ça fitait bien avec mon profil type que je me fais des devs, donc.
Tu as des cases.
Non, mais moi je suis assez d'accord avec lui. Tout ce que je peux faire au clavier physique, je le fais au clavier physique. Quoi.
Ah aussi? Ah ouais, alors. Mais qui est d'accord avec ça?
Le téléphone à ce côté aussi, t'as un appareil photo. Quoi.
Attends, je vois plein de mains qui pop comme ça. C'était pour répondre ou c'était.
Qui fait tout? Non, pour savoir ceux qui font au clavier.
Alors qui préfère un usage de sédentaire, on va dire, avec un vrai clavier, un grand écran?
On va dire un usage confortable.
Attends, t'es en train de.
Il est sous Android, c'est pas sa faute.
Et qui utilise principalement sur mobile? Ok, on va dire deux tiers, un tiers à peu près. D'accord, donc il y a quand même, ouais, on a un peu sous-estimé ça. Il y a beaucoup de gens.
Un peu ancien. C'est bizarre, normalement j'aurais dû être dans cette
catégorie. Non, mais c'est une question de faculté d'expression. Je veux dire, avec un clavier, tu peux taper extrêmement plus vite qu'avec un clavier portable.
C'est juste qu'on fait plus de choses que vous, les gars, en fait.
Je ne pense pas.
Ça, on en reparlera, mais je pense que sur un clavier mobile avec un swipe bien optimisé, ça va très très vite. Bah, bon.
Il a un clavier Beppo de toute façon.
Ouais, voilà. Est-ce que quelqu'un voulait réagir également sur cette discussion? Oui, alors le monsieur, tout au fond, au 22e rang. Ça non, va les édites.
Je suis même pas le dernier rang. Alors c'était juste pour réagir pour Optiméo.
Ouais.
En fait, il y a un truc que je trouve un petit peu triste, c'est parce que ça suppose que les gens y répondraient plus sur un certain moyen de communication. Or, ce que j'ai trouvé assez séduisant, c'est passer d'un certain truc. Avant, on connaissait pas Slack, et puis on a des amis qui vont sur Slack, et du coup, on utilise un peu plus Slack. Donc, c'était pour ça. Okay. En fait, ça présuppose que les gens restent dans un certain moyen de communication et passeront pas sur un autre.
Donc, vous êtes plutôt sur un profil butineur et curieux en disant, tiens, un nouveau moyen d'expression, on va y aller.
J'essaye de garder un esprit ouvert, mais après.
Voilà.
C'est vrai que moi, j'ai un esprit fermé. Non, mais le truc,
donc
c'est que nous.
T'es dangereuse,
non, mais
triste,
nous, on a arrêté de s'envoyer des mails, par exemple. Nous, on s'envoie plus jamais de mails entre nous.
C'est vrai, on
continue à envoyer des mails
si,
par ailleurs.
Si, pour les sujets graves d'argent, on s'envoie des mails.
Non.
C'est le dernier mail qu'on s'est envoyé, c'était un mail financier.
C'est toi qui as envoyé le mail, on s'en souvient
plus. C'était pas moi.
Un mail
financier. Je suis pas dans la
mailing. Moi
non plus. Ah, dans la famille.
On a fait une réunion en vrai plutôt.
Ok.
Alors dernière réaction sur le sujet. Est-ce que quelqu'un voulait réagir
là-bas?
Oui. Monsieur ici.
Sur la question de bonjour et bonsoir.
Oui.
Il y a quand même aussi cet aspect.
Bonjour.
Sur Snapchat, enfin sur les autres applications à part Snapchat, il n'y a pas de côté journée. Alors que Snapchat, étant donné que c'est utilisé en tout cas par Fibre et par certaines personnes comme du microblogging, enfin sur sa journée.
En continu. Oui.
Ouais.
Voilà, il y a ce côté aujourd'hui je vais faire ça et le bonjour c'est le début de la story.
Le soleil
bonsoir,
se couche.
Exactement. Alors que par exemple sur Twitter ou n'importe quoi d'autre, on n'a pas de notion de aujourd'hui j'ai fait telle chose.
Ah oui, c'est intéressant. Donc effectivement, donc Snapchat c'est quelque chose qui identifié et ponctuel dans le temps, enfin qui est identifié dans le temps, alors qu'on parlait d'autres discussions qui sont des trucs continus en fait, c'est ça? D'accord là-dessus ou pas?
Ouais, il y a une idée de session en fait dans Snapchat. Ouais. Tu commences une session le matin et tu la termines le soir.
Enfin, ça, c'est si t'as envie de suivre le rythme circadien.
C'est par exemple plus âge de fibre.
Cette session a même un nom, c'est la story. Voilà. Voir notre précédente émission qui est excellente.
CF, chronique précédente.
Très bien, oui.
Il y a des personnes qui utilisent les stories mais uniquement pour faire des blagues plus façon Twitter et qui du coup n'ont pas du tout cet usage de bonjour ou bonsoir.
D'accord. Donc là, en fait.
Fibre en fait.
Ouais. En fait, il n'y a que toi, Fibre.
Il y en a d'autres, je pense.
Et dire qu'on on s'était dit si on allait ouvrir un Slack public avec tous les gens de 404, tout le public, je pense que ce sera un bordel.
Ça sera un bordel, absolument.
On abandonnera l'idée. Merci beaucoup, en tout cas, fin de ce premier sujet, et on attaque la première FAQ.
FAQ.
Alors, il y a Stéphane. Est-ce qu'il y a un Stéphane qui a posé une question? Hop, on va te passer le micro. Il va se dire, je regrette totalement cette question que j'ai posée. Je te mangeais un onglet de bœuf, j'étais insouciant.
Maintenant que les trentenaires sont sur Snapchat, c'est quoi la suite?
Ah, où vont aller les ados maintenant que même les trentenaires, pas cool, on sont en train d'adopter Snapchat? C'est vrai ça, les ados, par définition, ils aiment bien trouver des terrains un peu non...
Bah, il y a Tribe.
Tribe, c'est quoi ça?
Non.
Je sais pas, je propose.
C'est vraiment un truc de vieux, ça.
Ah bon, j'en sais rien.
C'est un truc de start-up.
Je sais pas que c'est un truc de vieux, excusez-moi pour les gens de Tribe qui nous écoutent, mais tous les gens qui m'en ont parlé, c'était des vieux. Et plus vieux que moi, donc je suis vieux hein, déjà. Donc, voilà.
Non, ils peuvent aller sur Pitch.
Tribe, c'est
Pitch,
un Twitter,
truc où il n'y a plus personne.
D'accord. Attends, c'est quoi ça?
Tu te rappelles pas, c'est le truc qui a été lancé genre il y a deux semaines en même temps que Stolen.
Ah là là là.
Et genre c'est un réseau social où tu peux mettre des gifs et des trucs, mais tout le monde l'a déjà oublié parce que personne ne s'en sert.
Non mais il y a Yik-Yak.
Sur Pitch du coup il y a personne.
Ah. Yik-Yak ça marche vachement bien.
Lequel?
Yik-Yak.
Yik-Yak.
Ah oui, mais c'est que pour les jeunes.
Non, je l'ai essayé aussi.
Tu vois.
En fait, on a longtemps.
De toute façon, on peut pas répondre à cette question parce qu'on est trop vieux.
Ouais.
Non mais on fait de la veille. On essaie de suivre les jeunes. Où est-ce qu'ils pourraient aller du coup? Yik-Yak. Moi je suis pour.
Mais ils ont pas un don sur WhatsApp aussi? Mais on y est aussi hein, mais
WhatsApp, je crois que c'est très généraliste, je suis pas sûr. À voir. Mais j'aime bien ton idée de faire une sorte de retourner dans un lieu complètement abandonné, tu vois, genre le Berlin.
La cave de l'internet.
Ouais, l'Urbex, tu vas sur Hello, par exemple, aujourd'hui. Ouais. Non, mais c'est vrai.
Je continue de recevoir les newsletters d'Hello, là.
C'est vrai.
À chaque fois, ils me disent, hey, c'est super intéressant ce qu'il y a, viens voir.
S'il te plaît.
Ça a pas l'air ouf, les gars. Je vais pas venir.
Bon, on dira Hello. On leur donne rendez-vous sur Hello aux jeunes. On y sera pas, hein, promis, ça c'est sûr et certain. Allez, on attaque le deuxième sujet tout de suite avec Daz.
Sujet numéro 2.
Les réseaux sociaux, c'est boîte de Pandore de la conversation.
Alors, les réseaux sociaux.
On n'en parle pas souvent des réseaux
non,
sociaux.
Non, pas très souvent, donc bon. Leibniz. Ouais. Leibniz.
Attention.
tu commences par Leibniz.
Oui, c'est un philosophe, pas une marque de biscuits. Leibniz disait, la conscience est le propre de l'homme. Autrement dit, si nous ne sommes pas des animaux, c'est parce que nous avons assez tôt conscience d'être uniques. Si on avait tous bien lu ce truc-là avant de commencer Internet, ça aurait été beaucoup plus simple pour tout le monde. Parce que du coup, au démarrage d'Internet, tous les techos à cheveux longs du MIT se contrefoutaient de Leibniz. Et les valeurs mises en avant par Internet ont été le partage, l'échange, la communion des esprits, au lieu de la vraie et triste réalité, à savoir l'autosatisfaction, le contentement de soi et la fellation autotractée. Du coup, difficile de faire discuter les gens quand en fait ils ne pensent qu'à parler tous en même temps sans s'écouter. Mais impossible pour les réseaux sociaux d'admettre ça, ça serait admettre un échec en fait. Alors ils font rentrer au chausse-pied des fonctionnalités de discussion dans leurs produits. On ne sait jamais si ça se trouve, ça va marcher, aurait dit le webmaster du Figaro.fr au moment d'activer les commentaires. C'est tout ce comment ça a fini.
Le webmestre,
tout à fait. Alors au studio 404, vous le savez, on source toutes nos chroniques grâce à notre rigueur journalistique. Alors au lieu d'asséner des arguments d'autorité, nous sommes descendus dans la rue pour être au plus près des randoms qui constituent, il faut bien l'avouer, la grande majorité de notre public. Je vous sors donc le résultat d'un sondage hipster. C'est comme un sondage Ipsos, mais sur Twitter. Alors, à la question, pensez-vous que les discussions, replies, etc. sont bien gérées sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Hello et autres? 15% des gens ont répondu trop oui, alors que 85% des gens ont répondu super pas. C'est plutôt éloquent. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour discuter. Alors, ne nous mentons pas, à moins de bosser chez Twitter, impossible de savoir comment fonctionnent les conversations sur ce machin. Parfois, deux comptes qu'on suit se parlent, mais nous on voit rien. Ou alors, un compte qu'on suit s'adresse à quelqu'un qu'on ne suit pas, et du coup, boum, on a l'intégrale director's cut de la conversation. Alors on clique, ça déplie un truc, il y a 32 tweets qui s'enchaînent liés par une petite ligne, puis ça coupe, il y a écrit « Afficher plus », et en dessous, il y a encore 26 tweets supplémentaires. Alors on clique sur « Afficher plus », ça fait apparaître un pauvre tweet qui dit « MDR » qui aurait pu être affiché depuis le début, mais en fait non. Et si en plus, un des tweetos est en compte protégé, donc là, la conversation se transforme en enquête criminelle dans un établissement pour autistes, ponctué de froncements de sourcils et de « Mais pourquoi il dit ça? Ça n'a aucun sens, bordel !» Donc là, j'insère un gif de John Travolta dans Pulp Fiction. Les esprits les plus faibles ont même abandonné toute volonté de répondre sur Twitter pour ne pas tomber en catalepsie.
Mais de toute façon, l'idée même de discuter dans la soyance et le velouté sur un réseau qui ne permet que des échanges de 140 caractères maximum, hey, what did we expect? Mais attention, ça veut pas dire que plus de place rendrait le tout plus lisible. Regardez Facebook. Sur Facebook, vous avez toute la place que vous voulez. Et ben là aussi, c'est le bordel. Facebook affiche le statut d'un de vos contacts. Ok, cool. Et en dessous, un commentaire. Pas le premier, ni le dernier en date. Non, juste un commentaire. En réponse d'une réponse, en plus. Par quelqu'un que vous connaissez pas. À quelqu'un que vous connaissez pas non plus. Normal. Insérez donc le gif de John Travolta dans Pulp Fiction. Mais les sites tradis, c'est pareil. Les commentaires du Figaro, on en a parlé. C'est bordélique. Reddit, avec les réactions qui sont nestées sous d'autres réactions, qui ont forcé les fabricants à sortir des moniteurs 32 dixièmes pour tout afficher. En fait, c'est flagrant. Internet n'est pas fait pour discuter. On a beau être en 2016, et je pense, et vous pensez aussi, qu'on a finalement pas fait mieux que les forums, avec des discussions rangées verticalement, de la plus récente à la plus ancienne, et si le 32e commentateur veut répondre au premier, c'est pas grave, il coûte, et c'est réglé. Un seul réseau social, finalement, n'a pas tenté de réinventer un truc qui fonctionne bien, un seul. Est-ce que vous savez lequel c'est ?
Google Wave.
Je m'adresse au public.
Et aux gens constructifs.
Un seul réseau social, à mon sens, gère les commentaires de manière un peu saine.
J'ai entendu MySpace.
Un seul réseau social MySpace, encore en activité. Vous l'avez pas ? Vous l'avez pas ? Personne ne l'a ?
LinkedIn ?
Mais non, c'est de la merde, LinkedIn. Mais non, soyons sérieux, ils essaient de faire comme Facebook, donc forcément c'est nul.
D'ailleurs, ça se prononce LinkedIn. Hein.
Ouais, LinkedIn. Bon. Non, ce réseau social, en fait, c'est Instagram.
Eh oui.
Eh oui, parce que sur Instagram, les commentaires sont super simples. Ils parlent de la photo qu'il y a en objet. Alors, comment nous en sortir ? Là, j'ouvre un petit peu sur la suite. Comment est-ce qu'on pourrait se sortir de ce guépier ? Comment est-ce qu'on pourrait rendre toutes les discussions un peu plus digestes ? Moi, j'ai quelques propositions. Je vous invite à ajouter les vôtres. En premier, moi, je proposerais d'arrêter d'utiliser des algorithmes tordus pour présenter le contenu. Parce que c'est super chiant, en fait. Facebook, il décide de mettre en page le flux d'infos, et puis on ne sait pas pourquoi, il y a des mecs qui disparaissent, on ne les voit plus jamais. D'autres qui arrivent tout le temps alors qu'on leur a jamais parlé. Donc arrêtez les algorithmes tordus. Arrêtez aussi de vouloir embed une discussion dans un flux qui continue en fait sa vie. C'est-à-dire vraiment foutre ça sur des pages séparées, mais qu'on puisse pas en fait dans le flux cliquer sur un truc, tout déplier, rajouter 5000 tweets dans la...
C'est comme la personne qui s'incruste dans un cercle de discussion.
Ouais, c'est super chiant.
Vous parlez de quoi ?
On pourrait mettre en place aussi des robots grammar nazis, parce que là du coup ça couperait court à toute forme de discussion, puisque seuls les gens un petit
Grammaréo.
Par exemple, nazi-éo. Seuls les gens qui connaissent un peu les règles de grammaire de base pourraient discuter, donc du coup ça permettrait d'élever un peu le débat. Et sinon, on pourrait mettre des petits pictos pourris en instant reaction, parce qu'un emoji vaut 1000 mots.
Ouais.
Et donc là, Facebook a entendu ma prière, et maintenant on peut faire grrr sur un post qu'on n'aime pas. Voilà, moi c'est ce que je propose pour rendre le truc un peu plus digeste. Je sais pas si vous avez plus d'idées ou si vous avez une routine pour rendre vos discussions plus faciles à suivre, parce que moi j'ai essayé, en fait j'y arrive pas. Voilà, alors aidez-moi.
On va en discuter dans l'ordre. On applaudit Daz qui est en détresse. Ah, perdu
dans le flux des discussions. Et...
non linéaire, il y a que des embranchements.
Ah, c'est le bordel. Ben justement, ça me rappelle Google Wave. Google Wave, on a tous arrêté. Parce qu'à un moment donné, tu recules comme ça devant ton écran et tu fais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel?
J'écris un flowchart.
Tu comprends rien, le mec répond à la première, au premier truc et du coup, ça fait une timeline bizarre qui remonte et puis qui redescend. L'écran, il faisait comme ça en fait tout seul. Vous avez utilisé Google Wave ici? Non, vous êtes trop jeune.
Vous n'avez pas que ça à faire
surtout. On est trentenaires quoi, c'est bon.
Non, mais il fallait des invites pour Google Wave.
Ouais,
mais Google les invites, tu les trouves sur les paquets de céréales, tu vois. Ils sont pas non plus super
bon,
fermés quoi.
On en revient à ces discussions ou
oui, pardon.
On bifurque sur notre discussion avec.
Vas-y. Ouh.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat de Daz un peu triste sur le fait que c'est le bordel aujourd'hui les discussions ?
Ouais, mais on s'habitue au bordel en fait. Comme je le disais,
tu reviens sur ta
chronique précédente.
Tu t'habitues au bordel.
Bah ouais, moi sur Twitter, je me suis jamais dit sur Twitter c'est le bordel les discussions quoi.
C'est vrai.
Limite, ça fait un peu de suspense parce que souvent tu vois un tweet au milieu, tu dis mais de quoi il parle ?
Bah oui.
Du coup, tu ouvres et là ça te déroule.
Et là, t'as des comptes protégés, tu fais.
Non, moi, enfin, je sais pas qui sont tes amis, mais moi, enfin.
Mais c'est pas mes amis justement. C'est ça le problème.
J'ai rarement le truc de la conversation privée.
C'est vrai.
J'en ai,
c'est très chiant.
Fibre.
J'ai deux remarques.
Ah.
Alors, première remarque, c'est que les réseaux sociaux sont faits pour communiquer, mais pas forcément pour discuter. Et la nuance,
donc là, tu rejoins Daz. Ouais. On parle plus de soi, on s'exprime plus soi, mais on n'est pas forcément dans,
voilà, c'est
dans
ça. La discussion. Et une fois de plus, Twitter, moi, je l'ai abordé comme un blog, toi aussi. Je pense qu'il ne faut pas le faire dévier. Enfin, je veux dire,
alors pourquoi clairement... il propose de répondre dans ce cas-là ?
Mais on peut répondre à des posts de blog, tu vois, mais on ne peut pas forcément initier une discussion. C'est, ouais. En tout cas, il faut essayer de faire la distinction. Et la deuxième chose, c'est que, comme tu le présentes, avec beaucoup de logique derrière ton humour, c'est vrai que derrière la structure des commentaires Facebook, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est n'importe quoi, c'est un truc de fou.
C'est
mais
vrai.
Je trouve que quand on l'accepte, comme beaucoup de choses qui ont l'air désagréables et qu'on les accepte au bout d'un moment, c'est plutôt pas mal.
Comme le nazisme, par exemple.
C'est plutôt pas mal.
C'est toi qui as dit nazi dans ta truc.
Tu l'as pensé très fort.
Non, pas du tout. Je pense, par exemple, vous avez un post Facebook très populaire, ouais. 2000 likes. Et le premier commentaire que vous avez, il a 80 likes. Et ben, moi, je préfère avoir celui-là, qui ça se trouve être hyper drôle, plutôt que de me taper les 8 millions de commentaires et de trouver celui qui a 80 likes, tu vois. Et moi, j'ai une valorisation du contenu qui est bien foutu. Alors, j'ai pas l'enquête policière, Monsieur Colombo, qui a écrit le truc, la réponse et machin.
C'est-à-dire que pour toi, si ça se vend bien, c'est que c'est bien.
Mais non, mais s'il y a eu beaucoup de likes, c'est peut-être le like, il faut que ça soit utile à un moment. Et là c'est ton commentaire, ouais, il est valorisé.
Tu peux faire des likes ironiques, genre c'est tellement pourri que je like.
Mais justement, t'as le commentaire le plus pourri en premier, c'est quand même sympathique aussi. C'est
Fibre,
un
peu... Je suis pas sûr.
Fibre a un point, parce qu'il y a aussi des sites aujourd'hui qui mettent maintenant en avant des commentaires qui ont été choisis par l'éditeur et qui ont été les plus votés, qui sont les premiers à apparaître.
Oui, mais dans ce cas-là, tu as ce commentaire, vous a-t-il semblé utile, et tu dis oui.
Oui.
Mais sur Facebook, si tu likes, ça veut tout et rien dire.
Je vais prendre un exemple plus extrême, c'est Twitter. Twitter, effectivement, à chaque fois que je vois popper une conversation incompréhensible, je suis là, ah, je suis une réaction épidermique. Mais quand je me détends, ok, et que je regarde le truc,
en fait, soyez feng shui avec
je me dis, ouais, je me dis, c'est pas si con, voilà, ok, il y a un truc derrière. Et à mon avis, ils sont sur une piste qui va être améliorée, qui va être cool. Et c'est plutôt un futur heureux qui va se présenter au niveau de la présentation des commentaires.
Très
que,
optimiste,
ah, c'était mieux avant. Voilà.
Je propose que tu dises bonne nuit à la fin de chacune de tes interventions.
Et bonne nuit, et voilà. À demain, on passera une super journée.
Sylvain, qu'est-ce que t'en penses?
J'ai deux points.
Aussi.
Ouais, le premier, c'est que cette chronique aurait pu être écrite par mon daron.
Eh, mais je suis ton père.
Tellement c'est vieux jeu. Oh là là, je comprends pas les discussions
tout,
sur Internet.
Laisse-le développer.
Je comprends pas comment les replies ça fonctionne. Blablabla.
C'est le bordel.
Deuxième point.
Dire que c'est pas le bordel.
Deuxième point. Mais ce bordel, il est génial. Et depuis quand Internet ça doit être confortable, les gars?
Adepte du chaos.
Bah oui. Internet, c'est l'aventure. Vous avez oublié ou quoi? Vous êtes sur votre bateau, vous naviguez et tout. Il y a des récifs. C'est la merde.
Ça, c'est...
Ce qui est génial avec Twitter, c'est son imperfection. C'est génial.
Ok.
C'est ça qui est parfait. C'est ce qui est bien avec Twitter, c'est que c'est le fait que ton daron il comprenne pas comment ça marche. C'est
ça qui est bien. T'es un peu l'ado, quoi.
Mais bien sûr, on est tous l'ado de quelqu'un d'autre sur Internet. Mais tu vois, c'est ce qui est génial avec des sites comme Reddit ou comme 4chan, c'est que t'as une barrière de connaissance d'utilisation de l'outil qui fait que les connards seront pas dessus, quoi. Tu vas être
la preuve que si.
Bah ouais, mais parce que tu
suis dessus et je suis capable de dire c'est vraiment de la merde. Mais je reste dessus parce que je comprends.
Mais du coup, moi, je suis en train de parler sur ta gueule toute la journée sur Twitter, et vu que tu comprends pas comment fonctionnent les replies, tu vois pas mes tweets.
C'est ça que tu parles pas non plus, je sais très bien.
Non, mais on peut prendre un exemple par rapport à ta chronique. Instagram, soi-disant super bien structuré. Demain, un membre des One Direction poste une photo, tu vas avoir 4000 réponses, et ce sera trop bien, OMG, trop bien, trop bien.
Non, mais je suis pas
s'il y avait là, le comment un peu pertinent qui remonte et qui te
bascule. One Direction?
Why not, tu vois?
Hey, les mecs, vous
arrêtez, arrêtez de mettre des raccourcis, vous deux, parce que vous allez dans une impasse. Tous
les deux. Non, mais c'est oui. Voilà, ça permet de faire surnager parmi le bruit ambiant.
Donc c'est bien ce que je dis. Donc en fait, pour avoir donc dans un cas qui se produira une fois tous les 3 millions de tweets, c'est-à-dire un truc de One Direction où là il faut absolument avoir l'algo qui remet en ordre un petit peu les réactions. Toi, t'es capable d'accepter un fonctionnement cassé.
Il y a beaucoup de posts, publics avec beaucoup de réactions, même quand c'est un.
Non, mais ça m'ennuie parce que lui, il a quand même un historique de dev. Tu vois, il est ingénieur. Lui, bon, c'est un mec de la littérature, on s'en fout, tu vois. si tu connais un petit peu, tu saurais que la vie, elle est pas analogique, mon gars. Mais c'est pas grave. Mais toi, ça me surprend quand même.
Mais aujourd'hui, je suis bienveillant. Voilà. Donc, je pense que. Enfin, j'ai de la peine pour Twitter parce qu'il est en train de mourir sous nos yeux. Mais à ce détail près, c'est des bonnes initiatives, on va dire. En tout cas, mieux que les 10 000 caractères. Voilà. Bonne nuit.
Et donc, Sylvain, t'avais un deuxième point ou pas? Ou
Non, c'était il est trop vieux et ensuite il aime bien son petit confort.
D'accord. Et je voulais que tu réagisses aussi sur Facebook, parce que du coup, Facebook n'est pas un réseau élitiste comme d'autres peuvent l'être. Donc c'est un réseau où effectivement on a nos amis, on a des gens très nerds qui sont quand même sur Facebook, on a des parents, on a des gens qui sont enfin vraiment il y a tout, c'est un peu l'arche de Noé de la discussion. Comment on fait là-dessus pour s'y retrouver? Parce qu'effectivement,
et ben là,
des fois on tombe sur des commentaires.
C'est ce que Philippe dit, c'est compliqué. Pourquoi Facebook, c'est pour le commun des mortels? Parce que le commun des mortels est capable d'accepter de ne pas comprendre.
D'accord.
Et de ne pas être curieux et de se dire mais alors cet algorithme comment il fonctionne?
Eh oui, mais pardonnez-moi, pardonnez-moi.
Juste ça s'affiche comme ça et c'est tout. Et voilà, je vais
donc
pas
toi, ça t'embête pas de tomber sur un commentaire. En fait, tu sais
si,
plus.
Si moi ça me fait chier parce que
et d'avoir des bouts de commentaires, faut cliquer. Tu sais pas comment c'est classé, non?
Bah si, ça m'embête, mais je fais comme Fibre et j'accepte et je prends sur moi et je me dis c'est pas grave.
Mélissa, toi tu acceptes ça ou pas? Ou pareil, ça t'agace?
Facebook, j'aime pas. D'accord. Mais Twitter, je m'y suis vraiment faite, quoi.
Donc t'acceptes dans un cas et pas dans l'autre?
Et parce que je préfère Twitter. Enfin, d'accord. Facebook, il y a trop de notifs, trop de trucs, ça m'énerve.
Tu vois, par exemple, si Twitter, ils arrêtent de le faire par ordre chronologique, mais ils le font avec un algorithme, moi, ça va me rendre taré. Ouais, ça va me faire trop chier.
C'est ce qui est proposé d'ailleurs.
Et ça va me rendre fou. Ça va me rendre fou. Je vais me barrer de Twitter.
Non, tu vas l'accepter.
Non.
Parce que grâce à des gens comme toi, qu'en 41, on disait Guten Tag à Paris. Tu vas l'accepter, mon gars.
Alors, est-ce que dans le public, il y a des réactions? Est-ce que quelqu'un voudrait parler de ces discussions qui sont très très bordéliques ou qui ont été un peu, comme on disait dans certains réseaux, qui ont été un peu adaptés au jour le jour, un peu comme on pouvait?
Oui, le parallèle en fait avec la vie réelle, c'est-à-dire le moyen de communication par excellence qui peut être évidemment la conversation, du coup là c'est pareil, enfin, si on est 5 à discuter autour d'une table, ça peut être évidemment plus simple que si on est 46. Je pense qu'effectivement le parallèle avec l'utilisation des réseaux sociaux et notamment les conversations instantanées avec Facebook, c'est la même chose. Si on est à 2, si on est à 3, c'est gérable. Si on est beaucoup, ouais, ça devient compliqué parce qu'en fait les gens ne sont pas là au même moment. Donc du coup on revient effectivement sur le réseau et puis là, on s'aperçoit qu'on a loupé 47 messages, on doit tout relire, etc. Et en fait le parallèle se fait encore là, une fois à mon avis, avec la conversation. C'est-à-dire que on peut être 2. Et puis en fait, il y a une seule personne qui réagit 90% du temps. Donc en fait, je pense que c'est aussi de notre responsabilité, chacun d'entre nous, de effectivement utiliser ces outils dans la conversation de manière assez cadrée, ne pas empiéter effectivement sur le discours des autres, comme on pourrait le faire dans un débat avec des gens, etc. Enfin, le parallèle entre les deux types de conversations, à mon avis, est assez.
Ça veut dire que Internet essaye pas d'arranger les choses, en fait.
Je pense que c'est juste un transfert, effectivement, une reconfiguration, c'est un nouvel outil, une nouvelle manière, effectivement, de communiquer.
Par exemple, dire sur un statut Facebook, donc tu postes ton statut et puis tu dis « J'autorise 20 personnes à prendre part à la discussion. »
Non.
Et si t'arrives 21e, on dit « Bah non !»
Et non, justement, on pourrait pas faire ça comme dans la vie réelle autour d'une table. On peut pas dire « Bon, bah, toi, t'as le droit de dire 3 phrases pour contredire mon idée, par exemple, ou voilà, le temps de parole, etc. » Donc, je pense que en fait les choses sont pas si différentes finalement d'une conversation dans la vraie vie et une conversation finalement sur les réseaux sociaux.
Cela étant, c'est une idée très intéressante. C'est-à-dire, s'il y avait des groupes qui avec des codifications très précises, ce serait assez excitant. Et si t'as que 3 phrases pour argumenter et pas 4,
c'est t'as que 146.
Mais en fait, on a eu moment sur Internet dans des plateformes de discussion que t'as citées qui s'appelaient les forums. Il y avait des règles de bienséance. On n'avait pas le droit de flouder. Donc pas le droit d'écrire plusieurs messages à la suite. Ça veut dire que si on voulait rajouter quelque chose à notre propos, il fallait éditer son message. Sinon ça faisait des doubles posts, etc., etc. Donc il y avait plein de petites règles comme ça qui faisaient que la conversation était intelligible. Et ça, on l'a complètement perdu sur Facebook dans les commentaires. Je peux écrire un commentaire de 3 mots et puis ensuite réécrire un commentaire juste derrière et puis un troisième et puis un quatrième.
Cela étant, sur les forums, il y a des gens, le plus 1, il est né sur les forums, tu vois.
Bah, oui. Très bien.
Ouais, ouais. Ok.
Ok. Non mais c'est okay. Hyper contraire à la étiquette.
Bonne
Pourquoi
nuit.
Ok. Bonne nuit.
Pour dire que t'es d'accord, au contraire.
D'accord. Ok. Bon, je suis pas d'accord avec ça, mais.
Bah, tu
fais
plus simple ou je suis
non,
d'accord.
Mais après, Daz a oublié un truc, c'est que en fait, les DM et Messenger, c'est quand même la partie discussion de ces réseaux sociaux. Il n'y a pas que les commentaires, en fait. Parce que Messenger et DM, les DM en plus ont été ouverts à tous.
Les discussions, tu vois, quand par exemple t'as des social justice warriors qui bon.
Notre exemple.
Trigger warning. Non, mais quand t'as un groupe d'individus qui tombe sur quelqu'un, ils vont pas le faire en DM. On te dit donc, je te connais pas trop, mais j'étais pas trop d'accord.
Oui, donc là,
non, mais ils veulent quand même qu'on assiste au lynchage.
Bien sûr, mais il y a encore des outils,
c'est
quoi.
On resitue quand même sur ta chronique était sur la discussion publique.
Donc sur le lynchage, en fait, j'aurais dû.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est
le lynchage, j'ai mal organisé.
Il y a une autre personne dans le public qui veut réagir. Alors, je vois deux mains qui se lèvent. Donc, il y a une mademoiselle ici, il y a un monsieur ici. On va vous faire.
Oh, la galanterie 2016.
Bonjour.
Bonjour.
Moi, j'ai une petite question, en fait, c'est où est-ce que vous mettez Slack dans tout ça? Parce que j'ai un exemple, en gros, je suis la French Tech Vietnam sur Facebook. Ils ont un groupe Facebook où tout le monde parle. Ils sont tous déplacés sur Slack. Il y a des channels avec des trucs très organisés, recherche de job, etc. On est un peu près de la discussion publique quand même, parce que c'est très simple de rejoindre une channel Slack qui est ouverte à tout le monde. Et du coup, je ne sais pas si vous qualifiez de réseau social, si vous qualifiez... J'ai l'impression qu'il y a un petit peu quand même une rupture entre réseau social et... je sais pas, Slack, c'est même pas une application de messagerie, mais bon, un logiciel de messagerie qui est un petit peu factice.
C'est entre les
quoi.
Deux.
Ouais.
Alors juste pour resituer, pour les gens qui ne connaissent pas Slack, donc c'est un logiciel, une application et une plateforme de messagerie qui ressemble d'une certaine manière à IRC. Et donc,
c'est IRC,
qui mélange les chats groupés, les chats par thématique, les chats privés ou les chats entre juste deux personnes, et qui est très populaire en ce moment et qui nous a permis en tout cas de... Par exemple, de réduire notre masse de mails, pour raconter de la merde d'ailleurs aussi sur Slack, mais il y aura des discussions. Et effectivement, comme dit mademoiselle, il y a des Slack maintenant publics et thématiques où les gens peuvent venir rejoindre. Qu'est-ce que vous en pensez du coup là-dessus? Parce que du coup, on se retrouve sur des sortes de chats. C'est vrai qu'on est entre la zone privée protégée où tout le monde un peu s'y retrouve.
Jamais, jusqu'à présent, j'ai pas du tout cherché à regarder d'autres chats que ceux que j'utilise sur Slack pour.
Qui sont tous privés et
ça m'est même pas venu à l'idée en fait de regarder s'il y avait pas des trucs en open sur Slack.
D'accord.
Pour moi, Slack, c'est la recréation d'une conversation dans une entreprise, à part que on est dans cette entreprise moderne qui est que chacun est chez soi.
Ouais.
Voilà. Et donc, à la fois avec ce côté, comme c'est une conversation verbale, ça peut s'envoler. C'est, quand on a écrit quelque chose sur Slack, c'est pas un contrat, par exemple. Et à la fois avec ce fait que, y a quand même une prise de contact. Et sur Slack, je ressens quelque chose qui est de la chaleur.
Bonne nuit.
Trop fibre aujourd'hui, il est génial.
Il est en mode pipou.
Les mails, c'est super froid. Le téléphone, c'est assez froid. Il y a beaucoup de choses qui sont froides. Et le Slack, c'est un peu, t'es autour de la, tu sais, de la distributeur de coca dans l'entreprise ou de la cafetière, et puis on discute. Voilà.
D'accord.
Le projet, on en est là, il faut faire ça.
C'est ça tes moments de chaleur dans la vie, toi?
Dans une entreprise, en tout cas. Voilà.
Très bien. Mélissa, qu'est-ce que tu en penses de Slack? Toi, tu utilises beaucoup de Slack différents?
Ouais, je crois deux.
D'accord.
Fait. C'est pas tant.
Ok, je me suis emporté.
Non, trois en fait, mais deux vraiment beaucoup. Mais en fait, c'est le parfait intermédiaire, quoi. Parce que tu dis quand même les choses à un réseau de gens que t'aimes bien, mais sans avoir à le dire au monde entier.
Et qu'est-ce que vous pensez justement de ces Slack dont parlait mademoiselle, qui sont des Slack publics? Donc nous, on a.
Ça doit être le gros bordel, parce que nous, on n'a pas testé les Slack.
Ouais, j'ai expérimenté, c'est un peu le bordel.
Alors, pour ceux qui ont expérimenté, je vais entendre plus que monsieur qui disait que c'était l'horreur. Toi, c'était un peu le bordel aussi,
C'est le bordel, ouais. Parce que, en fait, ces Slack-là, enfin, ceux que j'ai testés, moi, reviennent à mettre en place une sorte de réseau social où tu vas partager des liens, etc. Et vu que t'as des trucs de génération d'aperçus automatiques, que les médias, ils sont embed, etc., ça devient vite un truc très, très complexe et très lourd à remonter, en fait, quand il y a beaucoup de contenu.
Il faut comprendre, enfin, dans l'ADN de Slack, à la base, c'est un jeu vidéo, hein.
Oui.
Donc, pour le savoir historiquement,
c'est un outil de jeu vidéo.
Voilà, le créateur de Flickr voulait créer une sorte de jeu de rôle fou. Il a créé son système de gestion de données, ça a été Flickr. Et là, il a créé Slack qui devait être le chat du jeu vidéo. Donc, on est aussi dans cet ADN structurel là.
Ouais, qui devait être sur juste des clans et des des nombres fermés de personnes. Ouais, très bien. Dernière question de monsieur qui voulait aussi poser une question. Bonjour.
Bonjour. Alors, en fait, je voulais revenir sur un truc, mais bon, Fibre, on a déjà parlé avant, je suis un peu dégoûté. Mais justement, pour revenir sur ce que disait Mélissa et puis après sur ce que disait Fibre, c'est que faut faire la distinction effectivement entre les réseaux sociaux où là on est là pour s'exprimer et sur les trucs les chats, les forums où on est là pour discuter. C'est vrai que ce que disait Da, c'est que en soi, les réseaux sociaux, on est là pour poster un truc, forcément pour attendre une réaction, mais après, ça dépend aussi de la façon dont tu utilises. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui, on va dire, assez... Enfin, je suis un peu le mec qui va pas réagir à tout, en fait. Je dis la plupart du temps les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe et pas forcément réagir. Donc, au final, ça dépend aussi comment est-ce qu'on prend la plateforme. Est-ce qu'on prend ça comme un espace de discussion, comme un espace
de réaction.
Expression, ou effectivement de lynchage, je sais pas, au final on dit ah, au fait c'est moi le meilleur, je fais des super blagues, ou au contraire juste on va voir les autres, on va faire, et au fait toi tu fais des fautes d'orthographe, t'es nul, salut. Donc
bonne nuit.
Bonne nuit.
Oui, bonne nuit, pardon. Je pense que voilà, il faut mettre la différence là-dessus. Et puis aussi pour revenir sur ce que vous disiez sur les commentaires qui pop random sur Facebook, au final quand tu vois un commentaire comme ça, tu vois pas le rapport avec ce qui a été publié, tu cliques pour voir ce qui se passe ou pas?
Ah, clickbait
maintenant,
ou pas
maintenant, non.
Ah bah oui, non, maintenant non, mais au final...
Au départ, ouais, je me disais, hey, mais quoi ? Voilà. Mmh. Et bon, final, bah, je l'ai fait 2-3 fois, et puis maintenant, non, je le regarde plus.
Bah oui, mais après, qu'est-ce qui dit pas que les, justement, que Facebook prend les, prend ce, le, en compte le fait que tu aies cliqué dessus, et après, au final, il va remettre dans ta timeline ce que les publications de cette personne-là ou de cette page-là.
Ah, c'est complexe, là.
Ouais, c'est le bordel. Mais c'est justement pour ça que j'évite, en fait, maintenant, de Facebook, je touche plus rien. Je me dis peut-être que ça se trouve, il regarde par rapport au scrolling, tu vois, que tu as. Il regarde sur quel poste t'es en train de regarder, et du coup, il va dire, lui, il l'aime bien, alors que pas du tout. Donc moi, maintenant, sur Facebook, je suis comme ça. Ouais. C'est plus simple.
Très bien. Fin de ce deuxième sujet. Merci. On peut remercier encore Daz. En tout cas, on peut applaudir.
Bon, merci.
Alors, la personne n'a pas laissé son nom, malheureusement, donc je vais le faire pour elle. Je crois que c'est adressé à Fibre. Est-ce que Snapchat, c'est l'histoire du soir pour adultes ? C'est mignon comme formulation, quand même.
Bah, oui.
Toi, tu le vois comme ça. Bonne nuit.
Non, alors, là, en ce qui me concerne,
oui.
Je peux savoir en temps réel qui regarde et quand.
Oui.
Et effectivement, les gens, entre 11h et 1h du matin, c'est là où j'ai mon maximum d'audience, où tout le monde regarde toute ma journée.
Donc pour toi, les gens s'endorment avec toi ?
Peut-être, pas seulement avec moi en tout cas. Mais
d'accord.
Parce que beaucoup de gens consomment beaucoup de comptes qui sont comme ouais. ça en storytelling.
Mais le soir en tout cas.
Voilà, enfin, en ce qui me concerne, c'est le soir.
Ah, c'est intéressant. Est-ce que, pour ceux qui utilisent Slack, ou qui essaient d'utiliser Slack, est-ce que vous êtes en mode.
Snapchat ?
Snapchat. Est-ce que vous êtes en mode, justement, dernier truc avant d'aller me coucher le soir, je suis tranquille au lit avec mon smartphone, je me mate des petites stories.
Pas dernier truc, Daz. Moi, pas dernier truc avant d'aller me coucher, mais oui, plutôt en soirée, histoire que les stories aient le temps de stacker des trucs, en fait.
Ah oui, d'accord.
Stacker des trucs.
Tu ouais, peux... pardon. Ah, dis donc, t'aimes pas les anglicismes, toi ?
J'ai pas compris.
Tu travailles chez ardoise.fr ? Non, mais. Ok.
Stacker, mais j'ai grand chose.
Ouais, stacker, non, en fait, comme on parle de story, ça sous-entend qu'il y a un début.
Tu peux t'excuser, Daz, au lieu de tout de suite vanner les gens, hein.
Non, pardon, mais c'est, voilà.
Tu peux juste expliquer ce que tu viens de dire.
Non, stacker, c'est empiler, en fait.
Ouais.
Tu vois.
Ouais.
Et donc, comme on parle d'une story et que moi j'aime bien quand dans les histoires il y a un début et une fin, j'aime pas, genre, regarder tout de suite la story, parce que je me dis, qu'est-ce qui se passe?
Parce qu'elle se développe.
Bah ouais, moi je préfère à la fin, tu vois, à la fin de la journée, quand par exemple Fibre fait ses petits débriefs, machin, quand Anne, du journal du Geek aussi, s'est mis à faire ça.
Ouais, c'est très bien.
Et suivait la Mobile World Congress à Barcelone, et du coup, quand tu le vois à la fin, t'as tout ce qui s'est passé dans la journée, c'est cool, quoi. Je préfère,
d'accord.
En fait.
Okay.
Plutôt que d'être comme, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas.
D'ailleurs, mini anecdote sur ça, c'est que la fameuse photo où on voit Zuckerberg qui passe à côté des centaines de personnes, on l'a d'abord vu sur Slack en direct. Ouais. Et après, on l'a vu 24 heures plus tard sur Twitter.
Et sur Snapchat.
On l'a vu sur Snapchat en direct, excuse-moi.
Ouais.
L'embrouillé
et
total.
Et voilà. Et 24 heures plus tard sur Twitter, et c'était déjà vieux quand ça arrivait sur Twitter, tu vois. C'était surprenant quand même.
Bande de jeunistes. Mélissa, tu utilises Snapchat?
Non, mais moi j'ai dit non. Justement, oui. J'ai dit non au chaos. C'était la couche de trop, tu vois. Donc j'ai dit non.
D'accord.
Pas de notif de story.
Mélissa, pas d'avis. Et toi, Sylvain?
Ouais, je pense que c'est un truc d'avant de se coucher. Enfin, c'est un truc du lit en tout cas.
D'accord.
Soit le matin, soit le soir. Mais c'est un truc que tu fais dans ton lit, Snapchat, pour moi, que tu consommes dans ton lit.
C'est bizarre.
Quoi ? Non ?
Je sais pas.
Bon, bah rendez-vous ce soir tous ensemble. Bon
sujet numéro 3.
Comment le téléphone est devenu l'appel de l'angoisse ?
Oh, merci NG.
Super NG.
Quel beau jingle, l'appel de l'angoisse, le téléphone. Mais pourquoi ?
Alors pourquoi ? Nous avons tous notre petite terreur quotidienne qui n'a pas trop d'importance dans l'absolu. Mais qui nous mine. Alors ça peut être le collègue relou qu'on croise au bureau, le patron qui met la pression, on peut avoir peur d'être en retard. En ce qui me concerne, moi, un jour sur deux environ, je dois passer un coup de fil. Voilà. Donc c'est un paradoxe. Le smartphone, ça câline nos addictions en maintenant un lien social moderne, fort. Mais la fonction originelle du smartphone, c'est-à-dire le téléphone, n'est pas trop appréciée. Voire, c'est une source d'angoisse. Alors,
à ce point-là.
On a fait un récent sondage Twitter, hipster. Cette fois-ci, avec plus de 1400 contributions.
Ah, c'est beau.
Parce que Sylvain a dit non, pas possible, il en a fait un. Donc, on a cumulé nos résultats. Et 80% des sondés, pour 80% des sondés, l'appel téléphonique est une source d'angoisse.
D'accord.
Et les réactions, d'ailleurs, étaient, mais oui, j'ai très peur du téléphone, je ne veux pas téléphoner, quoi. Donc, imaginez, vous avez rendez-vous avec quelqu'un. Très probablement, le contact s'est initié par un petit stalk mutuel de bon aloi. Vous avez échangé
un petit stalk de bon aloi.
Bah, moi, un petit stalk de business, quoi. Il fait quoi? Voilà, tu vois.
D'accord.
Vous avez échangé par mail et parce qu'il faut bien se rencontrer, vous vous êtes donné rendez-vous. À aucun moment, vous n'allez communiquer par téléphone, sauf si vous avez un problème. si vous ne trouvez pas le lieu du rendez-vous, si vous devez annuler au dernier moment. Le téléphone, qui avait pour fonction de relier deux personnes très éloignées, relie aujourd'hui des individus au contraire très proches dans l'espace et le temps, parce que vous êtes par exemple sur le point de vous rencontrer. Par voie de conséquence, le téléphone est donc porteur de messages d'urgence ou de mauvaises nouvelles. C'est rarement par mail que vous allez apprendre quelque chose de grave que l'on veut vous transmettre. Alors, je fais une petite parenthèse parce que cette dernière phrase, là, il m'a dit non, c'est surtout l'urgence et pas trop l'importance. Ouais. Et si, je donne un exemple triste, mais si tu as un décès dans la famille, les gens vont pas t'envoyer un mail. Tu vois, ils vont dire, ouais, j'ai un truc à te dire. Voilà. Donc, c'est quand c'est grave, c'est urgent.
Ouais.
Voilà, c'est...
D'accord.
Il existe d'ailleurs officiellement, Wikipédia, la peur du téléphone, un trouble anxieux identifié. Moi, personnellement, j'ai la peur du téléphone. Beaucoup d'entre vous ne consultent jamais leur messagerie de téléphone, la messagerie vocale.
Ouais.
Et parfois, votre répondeur, parce que j'en ai appelé certains, dit eh, « Envoyez-moi un SMS ». Donc, négation totale de la voix. Et puis, est-ce que c'est pas angoissant? Vous composez un numéro, vous attendez qu'on vous réponde ou non. Chaque bip, c'est un petit point de suspension. Vous vous introduisez dans la vie de quelqu'un sans savoir si à cet instant, il souhaite vous répondre. Vous créez une instance IRL forcée et c'est un côté complètement agressif, voire impoli.
Tu prends beaucoup la tête, Philippe, quand t'appelles quelqu'un, tu sais.
On va voir le public. Le téléphone est aussi le territoire de l'improvisation. Contrairement à un message écrit, où vous êtes bien dans votre fauteuil, vous pouvez vous relire, vous avez dit des bêtises, tout ça, et vous appuyez sur entrée. Là, vous les dites en direct, les bêtises, donc vous pouvez pas les valider, les corriger. Heureusement que les paroles s'envolent. L'identité visuelle et sonore du téléphone n'a pas changé en 20 ans. D'ailleurs, quelqu'un qui communiquerait comme Daz avec vous uniquement par téléphone ne serait-il pas un ringard angoissant qui paye tout en liquide, qui calcule en anciens francs, qui vous raconte de croustillantes anecdotes sur Mitterrand?
Alors, Giscard.
En évoquant cela, l'âme parlait de cycle. En effet, au début du téléphone, la correspondance écrite fut très rapidement considérée comme très formelle, longue et coûteuse, un hobby de dilettante. D'ailleurs, Leibniz correspondait beaucoup par écrit. Eh bien, aujourd'hui, le cycle s'est inversé. En 2016, les paroles résonnent gravement, tandis que les écrits sont légers et doux. Illustration, mise en situation. Imaginons qu'un homme appelle Daz et lui dise « Bonjour, monsieur, votre pénis est trop petit. Je vous invite à acheter du Cialis. » Mais c'est d'une violence. Non, mais tu vois ça, t'es traumatisé. Mais pourtant, quotidiennement, on en reçoit des dizaines, tu vois.
Et c'est très doux par écrit.
Voilà. Papa, par écrit,
j'aime
ça passe
moi,
complètement.
Perso.
D'ailleurs, pas de boîte à spam pour le téléphone. Et si c'était un peu la feature manquante dans un monde où, liste rouge ou pas, votre numéro va se balader un petit peu partout après votre première commande internet. Bon, ça ferait perdre un peu d'argent aux compagnies téléphoniques, c'est sûr.
Ouais.
Je dois avouer, propos nuancé, fait exceptionnel dans Studio 404, que le téléphone a ses avantages. Donc, en dépit des émojis, l'écrit, qui est souvent très ironique, possède une ambiguïté qui peut amener à des malentendus, voire des conflits. Dans ce cadre, pour clarifier les propos et souvent les apaiser, rien ne vaut la chaleur d'une voix humaine. Mais une fois de plus, le téléphone aura été l'outil de la crise, l'ultime recours, comme un petit sauveteur caché sous une vitre à briser en cas d'urgence. Bonne nuit.
Ah, on peut applaudir Fibre. Je vais te l'imposer, ce bonne nuit Fibre. Hein.
On arrête après l'émission. Hein.
C'est la fin de Bonjour, c'est Fibre Tic, sera bonne nuit à la fin de tes interventions. Donc Fibre, l'angoisse du téléphone, et c'est vrai que quand tu nous as proposé le sujet, on se dit oh, elle exagère un petit peu, et quand tu as lancé ces sondages auxquels beaucoup de personnes ont répondu, tout le monde a dit effectivement, dès que je vois un numéro inconnu, ça me stresse, dès que ça sonne, etc., c'est un peu exceptionnel.
Ouais. Et je vous passe les commentaires que j'ai eu en privé qui étaient, mais c'est horrible, il n'y a que des FDP, que des relous qui m'écrivent, c'est quand je dois passer un coup de téléphone, je m'y prépare psychologiquement une heure à l'avance, c'est vraiment très très dur. Et il y a aussi un paradoxe qui est, j'appelle quand même ma mère.
Ouais.
Pas moi personnellement, mais les gens disaient j'appelle mes parents, c'est bien, mais pour tout le reste, c'est horrible.
Ah, d'accord, donc il y a un petit îlot qui sont les parents, mais le reste, le téléphone, c'est dramatique quand même.
Voilà.
Y a un truc. Mélissa, tu avais l'air d'accord avec ce que disait Fibre.
Je suis super d'accord avec ça. Et en plus, pareil, j'appelle mes parents, mais parce que les parents, on a le droit de dire n'importe quoi, c'est pas grave.
D'accord.
Alors que tes potes, t'essayes toujours d'être un peu malin.
T'as pas des parents asiatiques, toi, tu sais. Tu peux non. pas dire n'importe quoi avec des parents asiatiques. Non, je déconne, papa.
Non, mais c'est vrai que je suis hyper angoissée, mais après, le truc du message vocal, moi, je comprends pas parce que j'ai les potes qui adorent le téléphone mais qui n'écoutent pas leurs messages vocaux et je comprends pas pourquoi.
Ah oui, moi je trouve qu'il y a un stress du message vocal. Ah quand ouais. on me dit
mais
vous avez
8
messages vocaux, bah ça me stresse d'essayer de les écouter.
Mais genre, eux ils les écoutent jamais. Genre, il y a des gens, c'est ok, ils écoutent jamais les messages vocaux. J'ai jamais compris ça.
Donc, toi, Daz, est-ce que tu rejoins un peu Mélissa Fibre là-dessus?
Ouais, complètement. Ouais.
Donc pareil, angoissé du téléphone maintenant.
Je dirais pas que c'est une angoisse, mais tu vois, à la Cogip, j'ai perdu mon portable pro.
Ouais.
J'ai toujours pas déclaré, je m'en fous.
Des mecs qui t'appellent en urgence depuis 2 ans.
J'ai juste viré mon numéro pro portable de la signature mail, mais.
Et donc, un, ça t'arrange, et deux, la communication se reroute par mail, en fait.
T'es moins dérangé, et du coup, le point d'entrée, c'est ton email ou ton téléphone fixe du bureau.
Ouais.
Et du coup, ouais, quand t'es dans une réunion, c'est cool. Vraiment.
Sylvain, toi, t'étais pas d'accord avec Fille parce que t'as lancé un autre sondage sur Twitter en disant c'est pas possible, on peut être angoissé.
Je me suis dit c'est pas possible, mes followers sont pas les mêmes que les tiens, ça peut pas être pareil, tout le monde ne peut pas être des angoissés et des névrosés du téléphone, mais en fait si. Pareil, exactement le même résultat, 80% de gens qui trouvent que le téléphone est une source d'angoisse.
Ah, c'est fou ça.
Et j'arrive pas trop à comprendre. Moi j'ai un souci avec les messages vocaux effectivement parce que pour moi c'est associé à des mauvaises nouvelles. Et donc du coup je déteste les écouter, il y a une pression d'écouter le message. Ouais. Mais je comprends pas comment le téléphone peut être une angoisse en fait.
Parce que ça a shifté en fait. Comme tu vois, personne t'aimera assez pour t'écrire en recommandé. D'accord. Non, mais, tu vois, si tu reçois un recommandé, forcément ça va pas. C'est pas des bonnes nouvelles, voilà. Ouais. Et en fait, ça a shifté, c'est-à-dire que quand le téléphone est apparu, j'imagine que le courrier s'est
comme
retrouvé
fibres, ouais,
en mode angoissant, c'est-à-dire on ne t'écrira que vraiment quand il y a des trucs horribles, machin, etc. Et maintenant qu'on a autre chose pour communiquer, le téléphone a pris la place
du courrier,
et donc quand on t'appelle, c'est que vraiment c'est la merde, en fait.
D'accord, mais pour rebondir là-dessus, il y avait aussi un côté pénible qui rendait le téléphone plus simple que le courrier à l'époque, donc on n'avait pas à écrire quelque chose, à faire des ratures, à recommencer, à aller à la poste, poster la chose, à attendre 3 jours une réponse, etc. Le téléphone était plus simple. Aujourd'hui, l'écrit me paraît pas forcément plus simple ou plus rapide que d'appeler quelqu'un.
Ça, c'est clair.
Pourquoi? Oui, quand même, ça te paraît plus simple.
Si, parce que ça te permet d'organiser tes pensées aussi. Là-dessus, je rejoins ce qu'il disait. C'est-à-dire que le téléphone, t'es en impro. Alors, effectivement, ce qui est cool, c'est que le type de l'autre côté du téléphone, il est aussi en impro. Donc, ça permet de gommer les.
Ça fait un match.
Il y a aussi l'aspect que quand on t'envoie un mail, t'as à la fois la réponse, mais t'as aussi un petit pense-bête par écrit.
Ouais.
Tandis que par téléphone, si tu dois noter des choses. Et ensuite, il y a une déperdition d'informations.
Alors, est-ce que, du coup, vos discussions, parce que c'est le sujet, vos discussions sur téléphone, maintenant, vous les écourtez, vous essayez de les simplifier? Alors qu'avant, effectivement, quand on était plus jeune, on était du genre à rester pendu 3 heures au téléphone, à dire n'importe quoi. Est-ce que maintenant, c'est quelque chose que vous essayez vraiment d'optimiser, de normer?
Moi, je supporte plus une conversation qui dure 20 minutes au téléphone. Déjà, t'as chaud, t'es mal, t'es comme ça.
Ouais.
T'as mal au bras.
Ouais.
Parce qu'on n'est plus habitué.
Ouais, c'est vrai, ça.
Vraiment, on n'est plus du tout habitué. Et puis surtout, c'est vraiment, on s'appelle vraiment pour régler des choses, quoi. C'est vraiment
d'accord.
Quand, justement, il y a des fois où quand même t'envoies des textos pour régler une heure, un truc. Évidemment, c'est relou de s'envoyer 40 textos, on n'est pas d'accord, juste on s'appelle. Et donc, ça dure 2 minutes. Mais les trucs de 20 minutes, c'est vraiment les grosses crises. Et je le fais, je pense, 2 fois par mois. Hein, vraiment.
Oh, t'as 2 grosses crises par mois quand même.
Ouais. Dur.
Mais j'avoue qu'on se met une petite pression quand on doit passer un coup de fil, quoi.
Ouais.
Genre on tousse un peu avant et tout, genre on parle dans le vide. Allô. Ah, allô. Allô.
Ghislain, okay, Ghislain, teste voix.
C'est parti. Non, mais quand ton téléphone sonne le matin, que t'es encore dans ton lit par exemple,
ouais.
tu parles à haute voix.
Tu parles avant.
Allô. Allô. C'est bon. Vas-y.
Je te réveille. Non.
Pas du tout.
Donc c'est un peu trop nu, trop cru, quoi. Aussi.
Ouais. C'est trop. Trois brûle pour point, quoi.
Moi, un jour sur deux.
Oui.
Malheureusement, j'ai un appel d'une heure avec mon associé qui ne marche que par téléphone.
Donc lui, il est vraiment que au téléphone.
Ouais, et c'est horrible. Et j'ai découvert un truc, c'est le kit main libre.
Ouais.
Et c'est excellent parce que j'avais 2 sources de stress.
Attends. Ça s'appelle le kit main libre.
On met les paires d'oreilles Bluetooth, tu vois, c'est énorme.
On vous le notera. J'avais 2 sources de stress. Première source de stress, c'était le téléphone. Et deuxième source, le mec, il me prend une heure, tu vois.
Ouais.
Et mais c'est tous les 2 jours. Donc ce que je fais, c'est que je fais la vaisselle, je range, tu vois,
ouais.
avec le kit main libre, tout en lui parlant. Voilà.
D'accord.
Où je prends des notes, à un moment, tu vois, c'est important. Voilà. Et mais y a, voilà, il y a des gens, ils ont besoin absolument de parler. Mais le Skype audio, ça devient un peu ça aussi.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est un peu la conversation informelle, et on est en train de taper quelque chose à côté, quoi.
D'accord. Et du coup, juste pour rebondir sur ce point-là, sur le fait que l'audio soit plus riche, ça prend plus de temps, et tu parles du Skype audio. Est-ce que vous utilisez les appels vidéo? Justement, qui apporte encore plus, on va dire, de pression et de renseignements.
Alors, FaceTime, non, mais Skype, ouais, j'en ai un par semaine.
D'accord. Et en vidéo aussi.
Moi, j'aime bien la vidéo tant qu'à faire.
Ah, mais du coup, ça te stresse moins la vidéo que passer un coup de fil.
Ouais, parce que. Ouais.
D'accord.
Ouais, parce que la personne est moins inconnue, c'est un peu la peur de l'inconnu, tu vois. C'est bonjour, comme... c'est les impôts. Si tu vois le mec des impôts qui est tout sec et qui pèse 20 kilos, tu vois, je t'en fous.
Mais pourquoi il se passe...
Si c'est un mec comme Daz, bon, j'ai pas trop envie qu'il m'appelle tous les jours, tu vois.
Sympa. Mais ça, tu fais de la vidéoconférence ou des
genre,
appels
on m'appelle en FaceTime, j'accepte jamais.
D'accord, donc toi, t'acceptes jamais. Non. Pareil, pour les mêmes raisons, pour le téléphone, ça te stresse.
Le nombre de plans que t'as loupé, Mélissa.
Non, mais surtout, un jour, je me suis retrouvée sur Skype, et donc le truc par vidéo était par défaut. Donc j'étais en mode détente, enfin, clairement, je m'en foutais. Et là, je vois ma gueule, je fais, oh mon dieu.
Ah, d'accord.
Ça, je veux plus jamais que ça se reproduise. Je suis pas du tout habituée, pas du tout habituée.
Prête, quoi.
C'est pas possible.
Moi, je m'en sers des appels vidéo, surtout en milieu pro.
Ouais.
C'est le seul moyen de t'assurer que tout le monde est vraiment
à la rue.
Autour du conf-call, ouais, parce que sinon, tu sais, chacun continue à répondre à ses mails, à faire autre chose.
Donc comme fibre, c'est, chacun fait de la vaisselle, le machin.
Ouais, c'est ça. En fait, à la Cogip, c'est comme ça que ça se passe. C'est quand on t'appelle, tu fais autre chose.
Ouais.
Et quand t'as vraiment besoin que les gens ils soient concentrés autour du truc, tu les mets en vidéo, comme ça ils sont.
Ah, donc c'est un outil de terreur, en fait.
Ah, bah oui, complètement. Mais nous, on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix parce que faut bosser avec des Slovènes, hein, c'est cool.
Sylvain,
ben moi je trouve ça assez marrant parce que on nous a beaucoup dépeint le futur des années 2000 comme le téléphone avec vidéo obligatoire et en fait on se retrouve à faire complètement l'inverse, c'est-à-dire à éviter absolument cette technologie quoi, parce que ça nous fout tous mal à l'aise.
D'accord, donc aucun de vous quatre, enfin à part toi, Fibre un petit peu, mais sur un truc très spécifique, n'utilisez la vidéo.
J'ai une anecdote terrifiante. Dans mon ancien appart, un moment je déménage et je transfère ma ligne téléphonique. Je suis resté 2 ans dans cet appart et la personne me dit, est-ce que vous voulez qu'on transfère votre répondeur téléphonique? J'ai dit, ah bon, j'en ai un. Ils m'ont dit oui, voilà comment faire. Et là, j'ai enclenché et j'ai eu 2 ans de messages. 2 ans de messages avec des mecs que je connaissais plus. T'es un enfoiré, je te déteste. T'es en retard. C'était un passage très pénible de ma vie. C'était horrible.
À la fin, tu t'es forcé à tous les écouter.
Je l'ai posé. Quand ça a été devenu horrible, j'ai posé. J'ai laissé se vider. Voilà, et je suis passé à autre chose.
Mais là-dessus, là où je rejoins Fibre aussi, c'est qu'on est tous abonnés Triple Play, Freebox, machin, etc.
Ouais.
Moi, j'ai une Freebox. J'ai jamais branché un téléphone dessus.
Ouais.
Ce qui veut dire que de temps en temps sur la Freebox tu vois un numéro qui s'affiche avec un type qui est en train d'essayer d'appeler, tu vois, et puis après qui te dit t'as un nouveau message. Je sais même pas où on va les écouter, on va, ok. Il y a un 08 qui a appelé, ouais, ça doit être pour vendre des cuisines ou des encyclopédies, tu vois, mais je veux dire, maintenant qu'on a en plus des téléphones portables, le besoin de téléphone fixe, alors là c'est.
C'est encore
pire quoi, ouais.
Est-ce que dans le public, il y a des gens qui partagent cette angoisse du téléphone au moment où ils doivent passer un coup de fil ou au moment où ils reçoivent un coup de fil d'une personne qu'ils ne veulent pas ou d'une personne qu'ils ne connaissent pas? Alors, monsieur et monsieur, on va commencer ici, puis on va aller là, puis là. Alors, bonjour. Allô? Oui, allô?
Oui, allô. Non, en fait, le coup de téléphone, c'est plutôt aussi quelque chose qui est intrusif, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, on est tranquillement, là, on regarde une série, on discute avec quelqu'un, et d'un coup, ça nous coupe.
D'accord.
On commence à aller dans un autre mode de pensée et c'est plutôt ça, moi, qui me fait peur dans l'appel téléphonique.
C'est un peu ce que Fibre disait, c'est que c'est monotache, ça nous prend entièrement, on peut pas faire autre chose.
C'est ça.
D'accord.
C'est ça.
Mais est-ce que tu réponds, est-ce que tu fais partie de ce genre de personnes qui répondent j'ai pas le temps, je te rappelle?
Je ne réponds pas.
Je préfère.
Coupes la sonnerie.
Exactement.
Ouais, bah c'est ce qu'il faut
mais
faire.
Je crois que c'était Navo qui réagissait sur Twitter au sondage de Fibre et qui disait le téléphone sur l'iPhone, sur un smartphone en général, c'est la seule tâche qui va enlever toutes les autres tâches, qui va popper sur l'écran.
Quand tu reçois un coup de fil,
tu peux rien faire d'autre. Ouais. Ça va pas se mettre dans les notifications, ça va te prendre tout l'écran d'un coup.
Donc en fait, est-ce que la gêne, comme disait monsieur ou toi Sylvain, c'est qu'en fait, on est une génération qui est multitâche et qui aime bien butiner sur plein de choses et que d'avoir quelque chose qui prend le pas sur tout, c'est plus du tout naturel pour nous.
En fait, la technologie nous impose que cette chose-là, le téléphone, soit quelque chose de prioritaire par rapport au reste, en fait.
Ouais. Et qu'il y a une certaine...
On est une génération de grosses baltringues quand même. Ouais. Je tenais à le dire.
Des baltringues multitâches.
Ouais, peut-être, mais baltringues quand même.
Très bien. Deuxième réaction, monsieur, bonjour.
Bonjour. Ouais, moi je voulais témoigner parce que je fais partie des personnes pour qui le téléphone c'est vachement important en fait. Donc
important, c'est-à-dire que.
C'est-à-dire que moi, par exemple, pour tout ce qui est un peu pro et tout, il faut très vite se téléphoner en fait pour éviter justement les malentendus, les trucs comme ça. Et en plus, pour moi, c'est une vraie plus-value, même stratégique en fait, parce que y a une proximité qui se crée tout de suite avec la personne.
Donc vous êtes, c'est quelque chose qui vous apporte quelque chose de bénéfique. C'est positif.
Mais à la fois, j'ai quand même toujours cette angoisse du moment du numéro quand quelqu'un m'appelle justement.
Ouais.
Surtout que je connais pas, et il y a toujours la petite pression, et, comme disait Sylvain, le tout ça, on a peur d'avoir une petite voix aiguë là qui arrive et tout, truc bien relou quoi. Mais malgré tout, en fait, je trouve que ça vaut le coup de se faire violence parce que tous les avantages qu'il y a derrière, pour moi, ils sont Enfin, ils sont incomparables en fait avec.
Donc même de nos jours pour vous, le téléphone a une vraie valeur.
Après, c'est normal. Il a l'accent.
Ouais, j'ai l'accent du sud.
À l'écrit, tu l'as pas ça. Tu vois. Non, mais c'est vrai, tous les gens qui ont l'accent, du coup, on a l'impression qu'ils sont comme nous. Et quand on les entend au téléphone, on fait, ah, mais ça sent les cigales et tout.
Oh là 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 là.
Peut-être que ça.
Je comprends. Quoi.
Mais après, au-delà de ça, voilà, c'est ma vie perso, mais bon, je vais en parler un peu. Je pense que ce qui m'a aidé aussi, c'est les sites de rencontres.
Ouais.
En fait, j'ai commencé très tôt, moi, les sites de rencontres, dès que j'étais majeur, en fait.
D'accord.
Je me suis dit, allez, c'est parti. Et, sauf qu'au début.
C'est vous qui avez demandé à lancer Appen.
Sauf qu'au début, en fait, j'étais super flippé de passer le gap de l'appel. Et pendant, on va dire, les deux premières années où je tripais sur les sites de rencontres, j'osais pas.
C'était que de l'écrit, en fait.
Ouais, voilà. Un jour, je me suis dit, allez, je me fais violence, faut que je rencontre la personne, et on va s'appeler, tu vois. Et en fait, comme ça va du coup, justement, je me suis dit, bon, bah, maintenant, il faut que j'appelle les gens comme ça. Et, pareil, sur le site de rencontre, je peux être un peu froid, mais si on s'appelle pas au bout de, je sais pas, 2-3 jours de talk, je squeeze, quoi.
Mais donc le téléphone a une vraie valeur.
Le téléphone sur les sites de rencontre.
Sylvain.
Genre, ouais. Sur Tinder, à un moment donné, tu mets, ah, passe-moi ton numéro, on va se passer un coup de fil.
Ouais, c'est bon, on s'appelle.
Sylvain, j'ai jamais
fait ça de ma vie, moi. Jamais.
Maintenant, faut
quand je vois la personne, quand je la rencontre dans le bar, c'est la première fois que j'entends
moi,
ça.
C'est d'abord on s'appelle et après on se rencontre, quoi. Si on s'appelle pas avant, il n'y a pas de rencontre, quoi. C'est
vraiment mais ça marche ou pas, je veux dire, en termes de.
Ouais, ça va, le ratio est correct.
Ok.
Je suis à 2-1, 2-2 sur Q2. Bon, j'ai perdu.
Après, c'est un peu qui te double quand même. Hein.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est intéressant. Donc, le coup de fil, comme vous dites, qu'il soit agréable ou pas agréable, il a une valeur importante.
En fait, voilà. Pour moi,
dans l'interaction et la discussion.
C'est pas facile parce que, comme vous, j'ai la petite angoisse et tout, mais ça vaut tellement le coup que pour moi, c'est faut se faire violence et ça vaut.
Très bien. Ok. On va passer au témoignage de Mademoiselle qui dit oui, alors moi j'ai déjà eu monsieur au téléphone, je peux vous dire.
Non, je veux revenir.
Bonjour.
Donc, bonjour. Je veux revenir par rapport à l'angoisse du téléphone, dans le sens où même si on a peur d'avoir des gens au téléphone, si on n'a pas ce téléphone, bah, on a peur de ne pas pouvoir être joignable. Enfin, personnellement, j'expérimente ça en ce moment parce que mon portable est décédé cette nuit. Mais
une minute de silence.
Mais non, mais c'est extrêmement angoissant parce qu'on se dit on peut pas être joignable en cas de camp d'urgence. Enfin, on en parlait tout à l'heure des cas d'urgence. Voilà, s'il se passe quelque chose de grave, on va pas nous envoyer un mail, on va essayer de nous appeler.
D'accord.
Et même si on n'aime pas forcément recevoir un appel, on a envie d'être joignable à tout moment en cas d'urgence.
Ah, donc c'est intéressant. Donc pour vous, en fait, le téléphone, c'est pas trop son utilisation, mais ce qui peut représenter ou le potentiel qu'il a. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus?
Pas du tout.
Non, pas du tout, Daz.
Toi, je suis comme le mec dans Jurassic Park, la vie trouve toujours son chemin. Et... non, mais le type qui essaie de te joindre parce que c'est ultra grave et qui arrive pas et qui fait.
Non, mais attends, Daz.
Bon, bah tant pis alors.
Non, mais si t'as pas de téléphone, justement.
Non, mais mail, enfin, t'envoies un milliard.
Non, mais attends, tes parents, si jamais ils ont une mauvaise nouvelle. S'ils peuvent pas t'appeler, je pense que c'est problématique, non?
C'est bah après, mon père essaiera de me choper sur Skype,
surtout,
par mail.
Tes parents, s'ils t'appellent, c'est parce que l'ordinateur est cassé, donc là, c'est
un courrier. Il y a aussi ça, ouais.
Donc, Daz n'est pas d'accord. Qui est d'accord ou pas d'accord avec ce que vient de dire Mademoiselle? Sylvain?
Moi, j'avoue que quand j'ai un message en absence, parce que j'ai pas vu le téléphone sonner ou un truc comme ça, j'ai un petit moment de doute où je me dis, ouais, ça doit quand même être super important pour que quelqu'un essaie de m'appeler, donc je vais lire le message et je vais rappeler, quoi.
Bah ouais. Pour le jeu auquel
c'est la valise RTL!
Vous? Fibre, est-ce que tu éteins ton téléphone ou est-ce que tu le laisses toujours allumé? Genre jamais en mode avion?
Toujours allumé, je réponds jamais aux appels.
Mais quand même, tu le laisses allumé.
Oui, et je google les
numéros.
Les numéros. Est-ce que, fonction qu'ils ont sur Android? Mais pas sur iPhone.
D'accord.
Le fait qu'on puisse savoir d'où ça vient. Parce que souvent, ce sont du spam. Et Dieu merci, il y a des bases de données qui disent ce numéro, c'était bien un mec qui voulait vendre des cuisines.
Tu te prends la tête comme à googler un numéro qui s'affiche.
Bah, okay.
Mais Mélissa, est-ce que tu coupes volontairement ou pas volontairement? Qu'est-ce que ça te fait quand tu n'es pas joignable?
Je coupe volontairement, mais j'ai très peur de couper.
D'accord. Donc, comme Mademoiselle, ça te stresse quand même de se dire, forcément, il peut se passer quelque chose.
Clairement, mes parents, ils m'appelleront, quoi. Ils m'enverront pas un mail. Enfin, ils finiront par le faire, mais ça les fera chier.
Attends, mais ça veut dire que tu passes pas ton téléphone en mode avion, là? Le soir, non. Genre.
Qui passe son téléphone en mode avion le soir?
On va tous mourir.
Non, c'est moins de la moitié.
Il n'y a pas la majorité.
Tous les autres, vous pensez
qui laisse son téléphone allumé le soir?
C'est important pour qu'on.
Voilà.
Ouais, mais c'est
incroyable.
Donc,
c'est au 50-50.
Non, mais c'est fou.
Ah bah oui, bah moi je sais parce que chez moi c'est 50-50. Moi je le mets en avion et la personne qui partage ma vie refuse de l'éteindre. Non mais pour les mêmes raisons.
Il y a les notifications Twitter dans la nuit.
Non, elles sont silencieuses, mais pareil, c'est pour les mêmes raisons, c'est de peur de ne pas être joignable. Ouais, j'ai loupé un like en dormant.
Et merde.
Très bien. Est-ce qu'on a une dernière question, Mademoiselle? Alors, une dernière en fait, on a plusieurs questions du coup. Mademoiselle, bonjour.
Bonjour. Non, moi je voulais parler d'une fonction intermédiaire dont je suis grande utilisatrice, c'est les messages vocaux sur WhatsApp en fait.
Ah donc il y a des messages vocaux sur WhatsApp.
Voilà, donc les enregistrements directs et les envoyer et enfin j'arrive à faire passer, enfin ça résout plusieurs problèmes en fait parce que déjà c'est moins intrusif qu'un coup de fil.
D'accord.
Et puis j'arrive à faire passer plus de choses que bêtement par écrit et puis en fait je suis basée à Bruxelles et donc j'ai des amis en France et en Allemagne et ça coûte beaucoup moins cher que simplement appeler.
D'accord.
Donc voilà.
Et est-ce que du coup vous arrivez à cumuler les deux avantages qui sont effectivement, vous faites passer plus d'informations ou de sentiments, comme disait monsieur, par la voix, mais en même temps, c'est quelque chose qui est maîtrisé parce que c'est pas une discussion, encore une fois, c'est qu'un message.
C'est pas vraiment maîtrisé parce qu'on a quand même l'impro, enfin, ouais. C'est quand même le petit dépassement de soi, il faut quand même fixer ses idées à l'avance, ouais. Mais voilà.
Ah, d'accord, c'est intéressant. Donc, vous laissez des messages locaux sur des chats.
Voilà.
Je suis d'accord.
Fibre, d'accord.
Oui, j'ai découvert une des fonctionnalités de Snapchat, la puissance, c'est ça aussi. En 10 secondes, on peut dire vraiment énormément de choses qu'on devrait structurer en clavier qui est compliqué.
D'accord, donc là on revient à l'impro vocale, c'est intéressant.
Voilà.
Mais est-ce que le futur, ça serait pas plutôt de pouvoir en fait appeler directement la boîte vocale de quelqu'un, même si le téléphone est prêt
Attends, c'est compliqué là.
Mais non, mais c'est-à-dire, tu as envie de dire quelque chose à la personne, mais t'as pas envie de l'interrompre dans sa journée.
Ouais, après, on peut le faire déjà.
Ah, mais après, t'as tous les gens qui écoutent pas leurs messages vocaux, donc c'est
oui, fini, mais du coup, ça réhabiliterait les messages vocaux.
Oh, c'est compliqué. Monsieur, pour la dernière question, il y avait un monsieur au fond qui voulait parler sur cette angoisse ou non du téléphone.
Oui, tout à fait, sur l'angoisse.
Bonjour.
Bonjour. En fait, je trouve qu'il y a une injustice inhérente dans le fait d'appeler quelqu'un, c'est que la personne qui appelle sait ce qu'elle va te dire, et toi, tu sais pas.
Ouais.
Ah. Et à partir du moment où tu réponds, tu dois réagir directement.
Oui, tu acceptes,
pas le temps
tu acceptes le contrat qui
ouais, t'envoie. Ouais, en fait, c'est ça. Et tu peux pas réfléchir pendant deux jours à comment tu vas répondre à cette personne. Tu dois le faire directement. Et ça, c'est très, très angoissant.
Pendant la sonnerie, la personne dise « sujet », tu vois. Thème. Ouais.
Mais ça serait bien.
Et un tel veut vous appeler à propos de... Ouais. Hein. Non, je prends pas. Ouais, mais ça serait une bonne idée. Il y a des trucs à faire, hein, avec Téléphonéo, là.
Ouais. Ou alors tu pousses jusqu'au bout, t'attends les 12 sonneries pour enfin décrocher avant le temps de te préparer. Vous êtes d'accord là-dessus ou pas? Ça vous stresse quand on vous appelle?
Bah, toujours.
Il y a une situation où la personne qui t'appelle est dominatrice en fait.
Ouais.
Et en fait, il y a une
Tu aimes ça.
Position de supériorité qui fait que il sait de quoi il va parler, il sait où il va t'emmener, et toi, il va falloir que tu réagisses du tac au tac.
Tu sais pourquoi je t'appelle ?
Alors, tu sais pourquoi je t'appelle ?
Non.
Très bien. Ok. Bah, merci beaucoup pour cette petite remarque. Et je pense que pas mal de gens ont des choses à dire. On relancera des sujets sur
le téléphone.
Sur cette histoire de téléphone. On peut applaudir en tout cas Fibre qui s'est ouvert à nous. Tu nous as parlé de sa vulnérabilité. Et on attaque la troisième FAQ.
FAQ de la fac.
Alors on va attaquer la troisième FAQ et le micro va voyager directement vers là-bas. Pour Sébastien qui avait une question à nous poser. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Bonjour. Ah, bonjour. Ça c'est un bonjour de coup de fil qui est pas mal. Tu vois.
Il vient de vendre quelque chose.
Ah.
Les messages numériques, textuels, nous ont transformés en FOMO. En FOMO. Les personnes qui ont peur de rater quelque chose.
D'accord.
Avec tous ces messages sur Facebook, tous ces dramas sur Twitter, toute la masse de conversations qu'il y a sur Slack et tous les mailing lists, on a un problème, c'est que si on lève les yeux 5 secondes, on a 50 nouveaux messages avec 15 gifs et 14 blagues sur les mers.
Ouais.
Parmi tout ça, il y a quand même 2-3 informations très importantes. Ce qui nous manque dans les conversations, ça serait peut-être le pote qui est là dans ta soirée et qui te dit bon là là ça a parlé de politique, lui il est pour ça, lui il est pour ça, et elle a parlé de cul, c'est le pote TLDR. Il nous manque le pote TLDR dans
le pote TLDR, donc celui qui vient te faire toutes les synthèses et qui dit qui te fait le tri,
c'est ça, qui te donne toutes les informations importantes de la conversation pour que tu reprennes et pour éviter de faire un MDR dans la conversation et que tu donnes des choses intéressantes à dire.
Ne serait-ce pas le travail des journalistes, Mélissa.
Non
mais tout le monde n'a pas un journaliste en soirée en disant bon je vais te faire une synthèse avec une attaque sur l'actu et des chiffres. Tout de suite c'est un peu compliqué.
On peut inventer une appli ensemble si tu veux.
Non mais c'est vrai, ce fameux... Ce torrent non-stop de contenu dont on parle depuis le début de cette émission, cette peur de louper aussi des choses, est-ce que ce serait bien d'avoir des systèmes?
Mais c'était compris dans Optiméo.
C'est vrai.
De te ranker tes notifications, parce que c'est vrai que moi, des fois, il m'arrive encore dans ma vie de pas avoir mon téléphone pendant 3 heures. Et à chaque fois, je me dis, ouais, t'as réussi. Et là, du coup, j'ouvre mon truc et genre, 25 notifications et j'ai des appels et les messages importants au milieu de tout ça, au milieu de toutes les notifs Facebook, Twitter, enfin tous les trucs que j'ai. Et je voudrais que les gens me les classent, quoi. Et c'est pas encore le cas sur mon smartphone.
Tu veux des stagiaires dans ta vie partout, tout le temps.
Non, je veux pas de stagiaires, je veux des services optimisés.
Personnellement, j'ai des amis IRL qui sont des amis TLDR.
Attends.
Trop d'acronymes.
Donc, tu as des amis dans la vraie vie?
Ouais, qui me briefent sur des sujets.
D'accord.
Que je m'en fous, mais j'ai envie d'être au taquet sur le sujet. Par exemple, les youtubeuses mode ou bloc beauté, jamais je regarderai ça, mais j'ai envie d'être
mais
au taquet.
Mais jamais dire jamais, Fibre, tu sais.
Donc, je me mets en face de la personne, j'ai vas-y, brief-moi, il s'est passé quoi cette semaine, tu vois? J'ai droit, tac, tac, tac. Et donc, je me sens un petit peu renseigné sans avoir à me taper un truc que je déteste.
Voilà. D'accord. Donc on peut essayer d'aller à l'essentiel.
En fait, il va avoir plein d'amis spécialistes dans plein de sujets différents.
Ça serait très bien.
Par plein de sujets qu'il aime pas.
Ouais, par exemple quand je dois m'acheter une carte graphique, et ben je demande à Daz.
Et voilà,
ah,
c'est ça.
Pas bête.
Ouais, tu
vois. Ah, puis même sur Slack, on se demande tout le temps. Vous avez suivi le machin Gate de la semaine et il y a toujours quelqu'un pour faire le résumé.
Par exemple,
quoi.
Là, le Dota Gate de Shanghai. Ouais. J'ai rien compris. Tu vas me faire un brief. Donc, voilà, et je vais au taquet. Je serai content.
Donc vous êtes pour avoir des sortes de résumés automatisés ou humanisés de gens,
c'est ça.
Parce qu'il y a trop d'informations.
Si on était tous le spécialiste de notre prochain, ce serait parfait.
Oh là là,
on a inventé un truc, les mecs, là. On a inventé un truc.
Mais il ressemble de plus en plus à un maître zen, moi, je trouve.
Ouais, je lance ma religion, là. Bonne nuit.
Allez, on attaque le dernier sujet avec Sylvain.
Sujet numéro 4.
Avant de devenir nos pires ennemis, les robots seront nos meilleurs interlocuteurs.
C'est une belle histoire d'amitié que tu viens de raconter.
Tout à fait.
Avec des robots.
Je vais vous apprendre quelque chose. Je vais vous apprendre que, en fait, vous avez tous des amis imaginaires. Tous. Dès l'instant où vous ouvrez votre boîte mail, en fait, vous vous retrouvez à dialoguer avec des machines les trois quarts du temps. Il y a la machine qui vous indique que votre colis est parti. Il y a celle qui vous demande si vous avez enjaillé votre repas livré par un cycliste. Ou encore celle qui vous prévient que votre avion est à 7h du matin demain. Ces conversations, elles sont tellement naturelles désormais. Que demain elles vont se retrouver dans Facebook Messenger, c'est prévu par notre ami Mark Zuckerberg, Zuki. Et ça va se passer comment? Ça va se passer comme ça. Toc toc toc, qui est là? Donc dans Messenger, c'est ASOS. J'ai une super paire de pompes qui devrait vraiment trop te plaire. Guess what, elles sont en solde. T'achètes, t'achètes pas. Oh, au fait, t'as un rendez-vous dans 30 minutes à l'autre bout de Paris. Est-ce que tu veux que je commande un Uber pour toi? Tu réponds oui, tu réponds non. Au fait, tu as dû recevoir ton moulin à café électrique. Amazon aimerait savoir si tu peux lui mettre une note quand t'auras 2 secondes. Quand on y réfléchit un petit peu, c'est pas déconnant cette histoire. Parce que dans un call center, les mecs qui passent la journée au téléphone à faire du service après-vente, en vérité, ils lisent un arbre de décision. Réponse oui, réponse non, cette personne a répondu ça, je peux lui répondre ça. Autrement dit, c'est un algorithme. Et les algorithmes, comme vous le savez, ça a été créé pour pouvoir être lu par des programmes informatiques. Autrement dit, des intelligences artificielles.
Ouais.
Et oui. Les robots nous piquent nos jobs, mais en plus, ils deviennent nos amis imaginaires dans nos conversations Facebook. Mais ne soyez pas robophobique. Que celui qui n'a jamais passé 20 minutes à rire en discutant avec Siri me jette le premier microprocesseur. C'est vrai. Quelle est la première chose que vous dites à une intelligence artificielle? Bonjour! Vous êtes déjà foutu. Vous considérez déjà les intelligences artificielles comme des interlocuteurs viables, potables. C'est déjà dans vos vies, en fait. Regardez, je ne sais pas si vous l'avez installé, la nouvelle application de Quartz. C'est l'actualité dans une application de messagerie. Vous discutez avec une intelligence artificielle qui vous raconte l'actu, en fait. C'est tellement naturel comme utilisation que lorsqu'ils l'ont découvert, certains journalistes, que je ne citerai pas, mais avec qui je travaille, se sont exclamés « Oh mais attendez, mais c'est vachement de boulot pour une rédaction quand même. » C'est-à-dire que les mecs croyaient que derrière la conversation, c'était des vrais humains. Damn, Daniel. Si vous utilisez Google Inbox, vous devriez, parce que c'est génial, vous avez sûrement remarqué une fonctionnalité particulièrement intéressante. Parfois, l'application vous propose des réponses pré-rédigées en fonction du contenu de votre mail. Donc sur tous les mails en anglais, Inbox vous propose des réponses, vous avez juste à cliquer pour répondre. C'est de la conversation assistée par ordinateur, en fait, de la CAO. Et ne mentez pas, vous le faites tout le temps. Que ce soit pour la correction orthographique, qui est maintenant de toute façon totalement admise, ou pour ne pas passer pour un con quand cette target vous dit qu'elle est fan de baseball. Go Yankees, et merci Wikipédia. Pas étonnant que vous soyez des angoissés du coup de fil, en fait, quand il faut décrocher votre téléphone, vous êtes à poil. On en a parlé. Alors, voici le futur, pas très loin, je dirais dans moins de 5 ans. Tout le bavardage, tout le chit-chat, tout l'inutile, tout le plat, tout cela va être délégué à une intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y aura un robot pour vous écouter vous plaindre, qui vous dira dehors quand il fait frais qu'il faut mettre un pull, qui vous dira que ce film que vous attendez depuis longtemps, il sort au cinéma ce soir. C'est aussi avec lui que vous discuterez de l'actualité. Et d'ailleurs, ce sera en fait très intéressant parce que une intelligence artificielle, c'est intelligent. Et oui, il fait pas de la politique de comptoir comme votre pote Michel, a.k.a. Marine, elle dit pas que des conneries. Donc deux améliorations pourront être observées à ce moment-là dans vos vies. Premièrement, Twitter sera redevenu un endroit intéressant, puisque vous aurez un robot spécial pour vous plaindre et vous supporter dans votre indignation.
Et votre ensuite, indignement.
Voilà, dans votre indignement. Et ensuite, vous aurez enfin de vraies discussions avec vos proches. Ce sera des discussions rares et précieuses. Un petit peu comme les maîtres zen qui n'ouvrent la bouche que lorsqu'ils ont quelque chose de vraiment très intéressant à dire. Ces moments, ils vont être importants et lorsqu'on vous adressera la parole, qu'on prononcera votre prénom pour avoir votre avis, eh ben, ça voudra dire qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment écouter la personne. Et comme les robots qui nous piquent notre job vont nous permettre de faire des jobs plus riches et plus créatifs, les intelligences artificielles avec qui on va discuter vont nous permettre de développer des relations sociales plus profondes entre les êtres humains. Et tandis que d'un côté, les intelligences artificielles se développeront pour toujours mieux nous comprendre, toujours mieux nous parler, toujours mieux nous écouter, les discussions humaines évolueront vers quelque chose qui n'existe pas encore, des émotions nouvelles qu'il nous reste à découvrir.
On peut applaudir Sylvain. Alors ce qui est bien, c'est que Sylvain, il a la tête du héros de Her et il vient de nous raconter Her.
C'est un peu
donc, c'est
ça.
Parfait.
C'est
un peu mais ça. Effectivement, beaucoup de constats, de choses qu'on ne soupçonnait pas mais qui sont dans notre réalité. On parle avec des scripts, on parle avec des intelligences artificielles, on répond à des algorithmes et il y a de plus en plus d'humains qui répondent suivant des algorithmes. Finalement, c'est pas si choquant alors que dans l'idée de dire que les robots vont devenir nos confidents, ça fait très film de science-fiction des années 80, un peu flippant quoi. Non, toi tu flippes pas du coup.
Bah non, moi ça me fait pas flipper, mais ce qui m'étonne le plus c'est qu'effectivement on se rend compte que ça existe déjà et qu'en fait c'est totalement transparent en fait. C'est devenu totalement naturel. C'est pas on se regarde pas le matin dans la glace en se disant putain, what a time to be alive quoi, je discute avec des robots. En fait, on le fait sans s'en rendre compte.
D'accord.
C'est ça qui est le plus fou, je trouve.
C'est là où on voit un vrai signe d'adoption en fait.
Ouais.
C'est quand c'est pas choquant. Est-ce que vous êtes assez d'accord avec ça vous?
Bah Mélissa. En fait, moi je me sers à la différence de Daz, je me sers jamais de Siri. Parce que c'est pas encore.
Moi, je m'en sers pas parce que ça fonctionne pas. Hein.
Voilà. Et l'appli de Quartz dont parle ouais. Sylvain, que j'ai forcément testé parce que j'avais trop envie de voir comment c'était fait. Déjà, je pense que les arbres ont été faits par la rédaction, mais après, c'est du coup.
Ouais, c'est moitié-moitié.
C'est moitié-moitié.
C'est des humains et des robots.
Et du coup, pareil, en fait, c'est une discussion, mais j'ai toujours peur de manquer des trucs. Et dans la discussion, t'as toujours l'impression que tu manques des trucs parce que bah, t'es dans une discussion, t'as pas encore le. C'est peut-être encore un truc de vieille icône, mais je pense que le truc est pas non plus optimisé. Donc, j'aurais vraiment l'impression de plus parler avec des robots. Quand ils sont vraiment au fond, là, j'ai encore l'impression que c'est la moitié-moitié. Et en fait, j'aime pas trop qu'on soit.
Donc, on est un peu dans la l'uncanny valley un peu de la conversation.
Voilà.
T'es un peu entre les deux.
On sent qu'on teste, mais on est en bêta, quoi. On est en bêta de tu vois, du robot conversationnel.
Ouais. Fibre, toi.
J'ai deux remarques. Bonjour. La première, c'est un proverbe russe qui dit. En Russie, la propagande, on sait que c'est de la propagande.
Ouais.
Là. Tandis que là, effectivement, je pense qu'il sera nécessaire de maintenir une uncanny valley pour les robots chatteurs. Parce que si un jour on discute longuement avec une personne et que des émotions se créent et qu'on s'aperçoit que c'est une multinationale derrière, la déception humaine va être immense. Et je pense que c'est quand Elon Musk dit nous met en garde contre les IA, tout ça, etc., il y a un peu de ça derrière. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que...
Je pense à un petit label sur les discussions. N'oubliez pas, vous êtes en train de discuter avec un robot.
Ouais, il faudra avoir un rappel à chaque fois.
Ou peut-être, tout simplement, on va pas pousser la qualité conversationnelle à celle d'un humain. Comme Daz le faisait remarquer l'autre jour, pourquoi faire des robots bipèdes? Ça me semble stupide. Bon, on pourrait dire pourquoi on veut que les robots parlent parfaitement. Bon, bref.
Je suis complètement d'accord avec toi.
Première remarque. Deuxième remarque.
C'est la troisième deuxième remarque.
Non, après, non, c'est la première remarque.
Si,
parce qu'on l'a coupé.
Je pense que j'irai plus loin que Sylvain. En disant qu'aujourd'hui, les IA sont beaucoup plus développées qu'on le pense. Et de la même façon qu'on n'utilise que 2% d'Excel, on utilise vraiment un tout petit pourcentage de Siri. J'utilise énormément Siri toute la journée.
Je crois que tu allais dire j'utilise énormément Excel toute la journée.
J'utilise beaucoup Excel, mais très peu, enfin, dans sa puissance. J'utilise beaucoup Siri. Et en gros, je demande des trucs hyper basiques, genre réveille-moi dans une heure, je dois aller à 404 à 13h, tu me réveilles et tu me montres le chemin. Donc tout est fait, mais il y a un potentiel énorme. Et aujourd'hui, en 2016 par exemple, Google a ce problème qui est que OK Google peut faire plein de choses.
OK Google, c'est aussi la reconnaissance vocale de Google.
C'est le Siri de Google, et il n'arrive pas à évangéliser les gens pour leur dire il faut l'utiliser à son plein potentiel. Voilà. Et il y a un problème d'éducation, c'est-à-dire qu'on est un peu comme le CD-ROM en 1994 où on avait un CD-ROM, on avait 640 mégas de stockage et on savait pas quoi en faire.
Ouais.
Et ben là, on a des IA et on sait pas quoi en faire sinon de mettre le réveil à 8h du matin. Voilà.
Ouais. Mais est-ce que du coup, pour rebondir là-dessus, y a cette barrière dont parle un peu Sylvain, qui est aujourd'hui, comme tu dis, on a des discussions utilitaires avec les IA qui sont un peu des assistants personnels, donc réveille-moi, réserve ceci. À quel moment on va avoir des discussions? Quel est ton avis sur ce débat?
Mais la question, elle est philosophique.
Est-ce que je suis fatigué aujourd'hui?
Bah, la question, elle est philosophique. Si tu considères qu'une IA, ça peut être l'équivalent d'un être humain, vas-y, discute. Mais philosophiquement, en tout cas, je pense pas que ce soit le cas, à moins qu'il y ait un nouveau changement de paradigme dans la science, quoi. Voilà.
D'accord. Toi, Daz, j'ai hâte de savoir ce que tu penses de tout cela.
Le futur dépeint par Sylvain comme d'hab, hein, de toute façon, depuis que Sylvain est Sylvain, je veux dire, bon, c'est un truc à mi-chemin entre le waouh, c'est chelou et ouais, pourquoi pas, mais c'est quand même chelou.
Ouais.
En fait, ce que disait Fibre par rapport à la question sur les robots bipèdes, pour moi, c'est exactement le même truc. C'est à quoi ça vous sert qu'une IA, en fait, dialogue avec vous comme votre pote?
Pour vendre des choses, voyons.
Mais moi, je m'en fous, ça marchera jamais. Tu vois, quand je suis
ça marchera jamais.
Bah, tu vois, par exemple, un site genre SFR ou Orange ou des trucs comme ça, où il y a un moteur de chat intégré pour le SAV, etc. Mais je préfère 10 000 fois des questions qui se succèdent plutôt que de taper mon truc dans un faux champ de discussion qui est en fait lu par une IA qui analyse. Je trouve ça nul. Enfin, je vois pas l'intérêt. En fait, le fait de pas croire que j'ai un mec ou une nana du helpdesk qui est en train de me parler en temps réel, donnez-moi la référence du serveur et c'est très bien pour moi, ça suffit, quoi. J'ai pas besoin de tout anthropomorphiser, en fait.
D'accord.
Tu vas donner vraiment un visage humain à tout ce que je croise. Ça me... Tu vois, j'ai eu cette petite discussion Facebook cette semaine, justement, avec un pote qui traitait de connard le mec avec la crosse de hockey sur la vidéo de Boston Dynamics, là où... Tu vois, t'as un robot qui marche.
Et le mec, il fait tomber la crosse.
Le pousse pour montrer, voilà. Et ils étaient tous en train de dire, bah, connard, comment tu fais? Tu pousses un robot, mais quand même, le pote. Et je me dis, mais vous êtes tous cons ou quoi? C'est une machine, quoi. Enfin, arrêtez. Le gars, c'est un ingénieur, il a passé 30 millions d'heures à travailler sur le truc et on le retiendra comme le connard qui pousse le gentil robot avec une crosse de hockey. Je me dis, mais merde.
Mais pour toi, toi, t'es pas du tout en mode.
Ah, moi, je m'en fous. Moi, les robots, c'est des robots. C'est pas tes potes, c'est pas ta famille, c'est un robot, quoi.
Terminator.
Même si aujourd'hui, t'as des déclarations comme, par exemple, Google qui a annoncé que l'IA qui développe pour leur moteur de recherche qui fait du deep learning a des mécanismes aujourd'hui de raisonnement qu'ils ne peuvent plus comprendre. Donc, on atteint quand même des niveaux.
Oui, mais ça reste.
Le robot sera pas qu'une machine. Il y aura quelque chose de.
Ouais, mais je préfère 10 000 fois discuter avec un mongolos au PMU du coin qu'avec une IA qui fait du deep learning. Je m'en fous, en fait. Ça m'intéresse pas. Tu parles à une machine, quoi. Enfin.
D'accord, non mais
que Siri, tu vois, comprenne quand tu lui dis Siri appelle ma meuf et hop et il appelle ta copine, je fais ok c'est cool. Mais Siri me tape dans le dos en disant hey, ça va mon srab machin, il y a un kebab à 200 mètres, je m'en fous, vas-y.
C'est intéressant parce que si dans 200 ans les IA sont nos amis. Toi, tu tiens des propos hyper racistes, en fait. Le mec, j'ai 4 ans, et tu dis, mais putain, mais ce Daz!
Trigger warning artificiel! Ah bah oui, c'est vrai!
Tu vas toutes les IA sur le dos, mec.
Mais non, j'arrive pas à comprendre. En fait, il y a tellement de champs qu'on n'a pas explorés dans les interactions humaines, j'arrive pas à comprendre le besoin de se lancer dans un truc avec des robots, quoi.
Enfin, Sylvain, comment tu te défends?
Peut-être.
Là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même un rôle pour des robots?
Non, mais. Daz, en fait, quand tu cites tes potes qui s'indignent qu'un robot
se prenne
un coup de crosse de hockey, je trouve que c'est vachement révélateur de la capacité de l'être humain à s'attacher à mettre une conscience. Et donc demain, toi, peut-être, parce que t'es fort et que tu peux mettre de la distance par rapport à ça, demain, tes potes là qui insultaient le mec, eh ben, ils vont discuter avec des IA en pensant que c'est des vraies personnes et le monde de demain, il sera fait comme ça.
Non, regarde. Pourquoi on a des rapports affectifs très forts avec des animaux de compagnie qui ont une intelligence artificielle extrêmement limitée?
Parce que c'est des êtres vivants.
Oui, mais
que tu les as fait grandir avec toi, que tu les as eu tout petits.
Pourquoi des gens ont des rapports très forts avec je sais pas la guitare qui les accompagnait pendant 25 ans ou avec des objets?
Non, mais en plus, je l'ai déjà dit dans une autre chronique qu'il fallait.
C'est bien parce qu'on peut. En fait, on fermer tous les débats comme ça.
C'est des cons. Mais non, mais parce que pour moi, un objet, ça te sert. Point, fin de l'histoire. Donc, tu vois, les gens qui donnent trop d'importance à un iPhone, à un ordinateur, les gars, calmez-vous, quoi.
Alors, attends, je vais te proposer une situation. À chaque fois que, depuis que tu vas sur Internet, à chaque fois que tu t'inscris sur un réseau social, t'as un mec qui a toujours le même prénom et qui, à chaque fois, est ton premier follower.
C'est Tom.
C'est Tom de MySpace. Ouais. Et à chaque fois, parfois, il te répond, il te fait des replies quand tu fais des tweets marrants, etc. Et ce mec, tu l'as toujours vu sur les réseaux, il est toujours là quand t'es là, etc. Et puis, au bout d'un moment, il commence à venir parler en privé avec toi, etc. Et puis, je sais pas, tu
parles avec ce type et il t'annonce qu'en fait c'est une intelligence artificielle depuis le début, c'est un robot qui apprend tes réactions, qui apprend tes contenus pour pouvoir devenir en fait ton meilleur buddy. Parce que c'est le seul mec
ça qui ça arrivera jamais.
Ben pourquoi si, ça n'arriverait
ça
pas
ça arrive, c'est très proche.
Parce que moi je suis pas en mode épistolaire, les gars. Si t'es mon pote, on va se voir pour de vrai. Quoi. Donc assez rapidement. Non, mais je veux dire.
Non, attends, mais ça arrive des mecs que t'as jamais vu dans la vraie vie avec qui tu discutes sur internet.
Non, mais des mecs qui te flattent, ça veut pas dire que c'est tes potes.
Non, non, mais je te dis pas
qu'ils te flattent. Mais non, mais parce qu'il y a ce côté-là. Moi, si tu me dis, ah, trop bien ton truc, je suis ok, merci, cool, voilà, vas-y.
Alors, juste pour replacer le débat.
Je sais pas, vous êtes bizarre.
Est-ce qu'on pourrait discuter de manière utilitaire mais sur des choses qui nous touchent émotionnellement. Imaginons qu'on a un robot qui soit un robot psychologue et qui
si.
Non mais voilà. Non, mais par exemple, imaginons qu'on fait une dépression et qu'on va discuter avec le robot et le robot va dire expliquez-moi ce qui ne va pas dans votre vie. On va dire je fais toujours le même cauchemar, je suis mal, je machin, etc.
Et le robot il fait
Non mais cela étant,
le robot de manière utilitaire va comprendre, essayer d'apporter des solutions, mais on parle quand même de choses privées, de choses personnelles avec lui. On ne parle pas de.
Non, moi
j'essaie de pousser le plus proche possible dans la zone grise.
Chez les développeurs, il y a déjà la technique du canard. C'est-à-dire que quand vous avez un problème, vous avez un canard à côté de votre PC et vous lui parlez, vous dites voilà mon problème c'est ça.
Ouais,
c'est
tu lui expliques ton cas.
Moi j'ai une petite boule de balle de baseball, je lui parle et en fait
je vois le regard de Daz d'ici. Le jugement.
En fait, mais je considère pas qu'elle ait envie Daz hein. Je considère que c'est une balle inerte hein, et j'ai pas du tout attachement émotionnel, je peux en prendre une autre à la mettre à la place, mais en lui parlant, je résous mon problème.
Oui, mais alors est-ce que une fois que tu as résolu ton problème, tu fais grâce à Babal, ma fidèle balle de baseball à qui j'ai pu parler de mon problème.
Beaucoup de gens parlent de leur canard et ça marche très très bien comme technique, c'est une technique super validée chez développeurs, hein.
C'est vrai. Ouais, mais les développeurs,
c'est des cons.
Encore une fois, c'est une population un peu à la marge, tu vois.
Mais cela étant,
ce qui est bien, c'est parce que c'est eux qui programment les machines. Qui
mais c'est pour ça que moi, j'accorde aucun crédit à ces trucs-là. Vous êtes cinglés. Vous laissez des psychopathes créer des intelligences artificielles pour discuter avec vous laissez ça à des gens avec qui vous discuterez jamais de toute façon.
Tu fusionnes la technique du canard et la technique des diagnostics automatisés qui existent déjà hein, c'est-à-dire le mec tu dis les symptômes, il te dit quel produit prendre, t'as ce robot psychologue sans problème. Et à mon avis, il aura un taux de guérison qui sera peut-être énorme hein.
Moi je suis vraiment pour fluidifier les échanges pour le côté utile. Mais à aucun moment j'imagine que c'est mon meilleur.
Je pense que sur le côté utile, on est tous d'accord. Justement la question c'est de le côté émotionnel ou affectif. Peut-on avoir des discussions?
En plus, c'est une mauvaise foi parce que t'as un tel attachement émotionnel à ton vaisseau dans Elite qui est un truc qui existe même pas. Je veux dire, tu m'as même pas touché. Donc
mais non, parce que j'ai assez d'argent pour le repayer s'il explose.
Le jour où tu le perds définitivement, je peux te dire, tu vas pleurer.
Je serai salé, mais là, ça sera plus parce que j'ai investi des heures dedans.
Oui, ben voilà, c'est émotionnel.
Mais tu vois, je pète mon iPhone. C'est pas l'iPhone qui va me faire chier, c'est les photos qu'il y a dans l'iPhone que je vais perdre, qui vont m'emmerder.
Oui.
L'iPhone en lui-même, je m'en fous.
Mais si ton iPhone, je me meurs d'Az. Avec la voix de Siri. On a quand même passé une après-midi où tu passais ta journée à déconnecter Siri en disant, Siri, dis alors Akbar. Et t'étais mort de rire. Et Siri te faisait plus rire que nous d'une certaine manière.
C'était pas avec Siri, c'était avec Google Translate.
Ah, c'était
avec
Google Translate, donc ça va.
Mais oui, oui, bon, on a tous nos petits amusements, ça va.
Mais Mélissa, est-ce que tu utiliserais ce genre de robot? Est-ce que comme ça te gêne et ça doit. Il y a une frontière,
non,
ça doit rester
utilitaire. Moi, je veux qu'il marche bien dans le film, dans Heure, ça marchait hyper bien. C'est pour ça qu'il y avait une relation qui se crée. Là, pour l'instant, j'ai aucune relation avec Siri, ni
si ton PC parle Google, avec une voix de chagasse comme ça, ok.
Chagasse.
bien sûr
qu'il faut prendre une meuf qui a une voix chaude et.
T'as parlé à Cortana sur Windows 10 ou pas?
Bah non, j'ai pas Windows.
Mais parle pas.
Mais tu vois, on en est au début, quoi. C'est la bêta.
Avec Cortana, je joue à des quiz cinéma. Elle me donne des pitchs de scénario de cinéma et je dois deviner de quel film elle parle. Et je peux passer beaucoup de temps à faire ça. En fait.
Moi avec Cortana, j'essaie de lancer Elite Dangerous, elle me propose de lancer l'uninstall d'Elite Dangerous. Tu vois, on n'a pas le même rapport à Cortana en fait. C'est ça, le truc.
Est-ce que dans le public, il y a des gens qui ont une réaction, alors tout au fond, et qui ont quelque chose à dire par rapport à la chronique de Sylvain et à cette possibilité que nos discussions soient toujours aussi vibrantes qu'aujourd'hui, mais dans le futur, elles ne se soient pas uniquement avec d'autres humains, mais aussi avec des intelligences artificielles. Bonjour mademoiselle.
Bonjour. Alors Daz, je ne te connais pas, je te découvre aujourd'hui, mais je pense que tu trolles et que.
Non, ah bon, jamais.
Et en fait, j'aimerais dire que c'est en fait moi je prends ça très au sérieux parce que c'est quelque chose qu'on soupçonne pas encore, comme vous l'avez dit en fait, qui est déjà omniprésent dans nos vies et qui va ne faire que se gagner en sophistication. Et il y a l'une de mes idoles qui s'appelle Serge Tisseron qui a beaucoup attaqué ce problème et qui parle d'empathie. Son bouquin s'appelle Le jour où mon robot m'aimera, dans le sens où lui il trouve ça très dangereux. En fait, là ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est développer des robots qui vont nous
nous faciliter la vie, nous comprendre par cœur, nous connaître, savoir ce qui nous intéresse et tout. C'est-à-dire que dans le futur, vous parliez d'enrichir les discussions, mais en fait, quel intérêt de discuter en fait avec un être humain faillible et juste incompétent en fait, ouais. Alors qu'on pourrait, on va organiser des débats entre IA qui connaîtront par contre le sujet.
Mais grave.
Laisse-moi finir.
C'est intéressant.
Laisse-moi finir. Ouais. Et du coup, lui, il parlait. Je vais simplifier le bouquin parce que je l'ai pas lu. Hein, j'ai un pote qui me l'a résumé.
T'as un pote, TLDR.
L'être humain faillible.
Non, okay. Mais là, un pote, il a le TLDR.
Lui, il parlait de robots Nutella, dans le sens où ça va être des robots sucrés qui vont nous faire sentir qu'on est la personne la plus importante à ses yeux.
D'accord.
Et en fait, il disait, c'est la responsabilité de nous tous, en tant que développeurs, marketeurs, de se demander qu'est-ce qu'on veut créer comme IA. Est-ce que c'est plutôt des IA qui vont nous encourager à reconnecter avec le vrai monde, en fait, parler avec des vrais gens. Et j'ai un exemple, qui est un peu maladroit, mais Facebook fait ça à petite échelle quand il te dit, tiens, sors un peu la tête de ton écran, il y a certains de tes amis qui participent à des événements près de chez toi, va voir dans la vraie vie à quoi ça ressemble.
Là, on est totalement dans ce que tu disais, Sylvain, effectivement, c'est qu'elle a... Il y a de la suggestion et il y a un ancrage dans la vie réelle.
Et surtout, pour conclure, je pense que on est tous faillibles. Enfin, on va tous adorer que les robots nous vénèrent comme des dieux et nous disent exactement ce qu'on veut entendre. Donc, c'est plus dangereux que ça, je pense.
Bah alors, du coup, c'est intéressant. Et en plus, on revient à cette histoire d'acceptation d'avoir des robots qui, effectivement, sont aussi là pour nous aider sur plein de points et peut-être nous sentir mieux et d'avoir des meilleures conversations au téléphone avec des gens après, des vrais. Non, t'es pas d'accord.
Mais j'arrive pas à comprendre l'intérêt de faire discuter, enfin de débattre avec un robot, quoi. Enfin,
non, pas forcément débattre. Discuter, non, mais en général, parce que échanger avec un robot.
Tu parlais de ça, tu parlais de. Pas
forcément débattre, en fait, juste avoir.
Une interaction.
Ça absorbera toutes les interactions
vidéos,
au quotidien.
Il y a déjà des vidéos de l'IA qui discutent entre elles sur YouTube assez intéressantes et qui sont vieilles déjà depuis presque 6 ans, donc. Et ça marche très très bien. Donc.
Moi, tu vois, par exemple, j'ai un problème personnel qui est que je ne peux pas confier des sentiments trop intimes à mes potes. J'arrive pas, si tu veux. À personne, d'ailleurs. Trop intime, ouais, bien sûr. Et du coup, moi, ça m'arrangerait d'avoir une IA à qui discuter quand je me fais plaquer ou quand il y a un truc qui va pas, etc.
Tu sais quoi, va chez le psy.
Bah non, justement, non, mais même un problème. Psy.
Les gars, vous êtes névrosés, vous croyez que la technologie va répondre à votre
névrose. Je sais qu'un être humain va avoir pitié de moi.
Il faut vous soigner. Il faut se soigner, Sylvain, c'est important.
Mais oui, le psy, on n'a rien à faire. Autant parler à un robot.
Tu vois, avoir un journal et écrire cher journal, aujourd'hui ça va pas, c'est exactement la même démarche.
Ah, c'est pas bête comme image de journal.
Le robot d'Anne Frank.
Mais je préfère avoir quelqu'un qui me dit le robot d'Anne Frank, putain.
Ça va être l'ami, quoi.
Anne Frank et O.
Oh, le terrain.
C'est moche.
Mais quoi,
c'est Sarlacc là, on y va tout droit. Non, je sais pas,
Et si tu devais construire une IA? Moi, si je devais construire une IA, je ferais ça. Je ferais une IA qui m'adore.
Tu ferais comme mademoiselle a proposé.
Mais faites des gosses, putain, c'est à ça que ça sert.
Mais non, les gosses te détestent après.
Ça te déteste plus tard. Comme ton IA qui actuellement va t'adorer, une fois qu'elle aura bien appris toute ta vie, qu'elle viendra te traquer la nuit avec ses copains robots pour vous fumer, toi et ta famille, vous verrez si vous rigolez encore.
T'as peur des robots, c'est ça? Tu nous l'as pas dit.
J'ai vu Terminator, moi. Je suis un enfant du siècle. Hein.
Est-ce qu'on a une autre question? Parce que là, ça part très loin. Monsieur, oui?
Du coup, tu disais tout à l'heure, tu parlais d'expérience finalement sans le mentionner directement, mais tu disais par exemple une guitare, enfin je sais plus qui le disait, avec laquelle on passe 25 ans, voilà, on imagine des rockers qui font leur carrière avec. C'est un objet finalement, comme effectivement pourrait l'être l'intelligence artificielle inclus dans un dispositif technique, quoi.
Mais avec une valeur.
Voilà. Et du coup, en fait, je me dis, au final, c'est cette notion d'expérience qui est intéressante parce qu'au final, la guitare avec laquelle on va faire la tournée pendant 25 ans, on va être attaché en fait pour les souvenirs qu'elle va nous générer en fait au fur et à mesure qu'on avance. Je me dis, dans le futur, est-ce que ça serait possible finalement que l'intelligence artificielle nous produise finalement ces souvenirs et ces expériences et se dire que finalement, la semaine dernière, grâce à l'intelligence artificielle, j'ai vécu une expérience super, j'ai fait quelque chose de... Je sais pas, du sport et je me suis dépassé avec elle. Enfin là, c'est peut-être un exemple un peu basique, mais je veux dire des choses qui pourraient nous faire rêver comme des objets, effectivement, comme cette guitare du rocker.
Du coup, puisqu'on est dans l'anthropomorphisme, ton IA là, tu l'incarnerais comment? Enfin, comment tu l'as?
On n'est pas obligé de l'incarner.
Non, mais comment tu visualises le truc? Parce que faut forcément la lier à un objet si tu veux que ça ait un rapport.
Oui, on imagine qu'elle soit inclue, par exemple, dans le smartphone ou même que ça soit un casque connecté qui justement avec qui on peut parler entre guillemets, etc. Enfin, j'ai pas la réponse, mais ce que je veux dire, c'est que justement l'intelligence artificielle dans un dispositif pourrait enfin peut-être qu'elle pourrait nous permettre justement de créer de l'expérience qui va non, au-delà mais
que tu la regrettes si ton truc plante et tu perds toutes tes données, tu vois, et que tu regrettes cette IA comme tu regrettes ta guitare que t'as pété ou ta boîte à outils que t'as perdu ou des trucs comme ça. Moi j'ai pas de problème avec ça. C'est à partir du moment où tu crées du sentiment réel, où tu veux discuter avec ta boîte à outils, c'est là que t'as des problèmes, tu vois. C'est...
Oui, mais
ça reste des outils en fait.
La guitare, oui, mais la guitare est pétée, mais le souvenir reste. L'intelligence artificielle ne fonctionne plus, mais le souvenir reste aussi.
Ça ressemble un peu à ce qu'on fait dans certains jeux vidéo, où on construit des choses dans des jeux vidéo, que ce soit des jeux comme Animal Crossing ou SimCity ou même un MMORPG où on construit son personnage. Et le temps qu'on a passé avec, le temps qu'on a fait pour qu'il se crée à notre image ou qu'il nous crée des difficultés, justement, elle est là, la valeur.
Ouais, mais dans ce cas-là, ce que je veux dire, c'est que c'est une valeur par rapport au temps passé, au temps investi. C'est pas une valeur sentimentale par rapport à l'objet en lui-même et ce qu'il peut représenter au sens sentimental du terme. C'est-à-dire que ton MMORPG, c'est parce que t'as passé 300 heures à crafter ton perso que ça te fout les boules quand tu crashes ta sauvegarde.
Ah si, je crois que ça te foutra les boules.
Mais tu te dis pas à un moment donné, j'irais bien manger une pizza avec mon perso de MMORPG.
Non.
Mais parce que c'est ce côté-là, c'est ce côté empathique,
ouais,
qu'on tente absolument de mettre dans l'IA pour la rendre plus performante, qui moi me.
D'accord.
Je vois pas l'intérêt. En fait, je comprends la démarche intellectuelle, mais.
Mais t'es pas d'accord.
Je vois pas l'intérêt.
Mademoiselle, ici, a une question, je vais passer le micro, et puis après, monsieur, derrière.
Oui, moi, je vous rejoins.
Bonjour.
En fait, c'est, le problème, c'est la réciprocité, et c'est la notion d'attachement, et c'est ce que vous disiez dans le film tout à l'heure de R. À la fin, il est dévasté, parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas unique. Et qu'est-ce qui fait la valeur de la relation? C'est cette réciprocité, cet attachement. Et avec une IA, on ne peut pas faire ça.
Mais comme dit mademoiselle tout à l'heure, est-ce qu'on peut créer une IA qui, justement, est programmée pour nous faire du bien, qui est, justement, unique, puisqu'elle est... Elle est d'une certaine manière réglée autour de la personne.
Réglez vos problèmes, consultez les gars, consultez.
Monsieur, bonjour.
Bonjour, moi je travaille chez un fabricant de robots, donc du coup...
Ah, t'es le mec à la crosse de hockey. C'est lui.
Et du coup, en fait, dans l'approche, nous, c'est aussi un des éléments sur lesquels on travaille, c'est-à-dire pas offrir la même intelligence artificielle à tout le monde, mais qu'elle... évolue en fonction de la relation qu'on va avoir avec elle. Donc du coup, on n'est pas sur du Cortana qui va être exactement le même et auquel je vais demander quelque chose de purement utilitaire. Mais moi, je vois les développeurs, c'est des développeurs, mais avec lesquels je travaille, on voit qu'en fait, ils n'attendent pas forcément un robot, par exemple, qui va les admirer, mais ils attendent beaucoup une complicité avec le robot qui peut se baser sur le fait qu'il puisse être sarcastique et ce type de choses. Donc, on n'est pas que dans du bon sentiment et du positif et t'es le meilleur, mais il y a quand même cette envie de se dire... ça crée de l'attachement, pas on va tomber amoureux du robot, c'est pas l'histoire, mais il y a une histoire qui s'est créée entre nous qui est pas neutre. Et on voit même, enfin, on a des robots qu'on vend au Japon où il y a des gens qui refusent de les upgrader au sens du hardware parce que ce serait plus leur robot dans leur tête. Alors que notre approche à nous est complètement différente, de se dire meilleur hardware, allons-y. Là, c'est vraiment non, je veux pas l'upgrader parce que c'est celui-là le mien. Si je le change, ça devient quelque chose d'autre.
Donc là, on revient aussi à l'histoire un peu de la guitare ou d'un objet qui à soi, c'est plus important
Ça reste pour moi, c'est un objet avec lequel tu crées des souvenirs.
Tu discutes avec une IA et elle est indiscernable d'une personne réelle et que jamais on ouvre la boîte de Schrödinger dans laquelle on sait si c'est une IA ou pas. Quelle est la différence pour toi? Elle n'existera pas.
C'est compliqué.
Ce moment est proche, malheureusement.
Oui.
Ce moment est proche.
It's coming.
Franchement, j'ai hâte de voir les IA te répondre au téléphone avec des faux accents marocains pour faire croire que c'est des mecs d'un call center à Marrakech.
Ce qui est bien avec Daz, c'est que dès qu'il est accueilli dans un coin, une dernière question pour finir. Monsieur Diabo,
une petite précision sur ça. Je pense pas que le but ce soit, en tout cas de notre côté, de tromper dans le sens à cutter le sentiment de t'adresser à un humain. C'est juste de faire en sorte que l'interaction elle soit intéressante pour toi.
Mais moi je suis d'accord avec toi parce que justement tu bosses dans ce milieu-là et tu sais où vous allez. Mais je parle de tous les gens en fait qui n'y connaissent que dalle et qui eux projettent leur fantasme de je peux avoir mon numéro 5 personnel ou mon BB-8 ou mon R2-D2 et c'est mon petit robot, je l'aime. T'avais fait une chronique sur les robots et la NASA et l'ESA, etc. pour dire que ça servait à rien de les transformer en tataillés j'étais plutôt d'accord avec ça aussi, toi.
Non, je dis que l'interface, la mise en scène était grotesque, mais c'est très émouvant d'avoir une sonde qui meurt à 1 million de kilomètres d'ici.
Oui, mais avec des infos réel. De sonde, pas qui te dit je suis en train de mourir, j'ai froid. Juste qui te dit il fait moins 350 degrés, ça commence à cailler.
Oui, mais le deep learning de Google est structuré justement pour émuler une intelligence qui ressemblerait à de l'humain et pas balancer des 0 et des 1 comme un ordinateur classique.
Le fait même qu'il parle sur le langage humain, c'est un travail de, d'anthropomorphisme.
Ça, c'est pour parler
une dernière question. Alors, monsieur, oui, juste à côté, bonjour.
C'est les gazules, le problème.
Moi, je voulais juste demander à Sylvain, pourquoi est-ce que tu penses que les gens ont besoin de parler à une IA alors que c'est aussi facile aujourd'hui d'entrer en contact avec des inconnus? Genre, moi, j'ai l'exemple de ces gens qui t'ajoutent sur Facebook sans te connaître. J'en ai accepté une. Je
propose d'aller en Syrie.
Non, pas du tout. Non, non.
Non, il te propose de cliquer sur cette lien pour aller voir cette caméra.
J'ai en fait une meuf qui m'a raconté sa vie, genre comment est-ce qu'elle allait pas bien, et qu'est-ce qui se passait et tout ça. Et
c'est intéressant, ça.
Genre pourquoi est-ce que tu irais parler à une IA alors qu'aujourd'hui tu peux très facilement rentrer en contact avec quelqu'un sur Facebook que tu connais pas ou sur Twitter, aller sur 4chan et expliquer tes problèmes.
C'est vrai que c'est une super bonne idée ça.
Non, je l'ai fait.
Non mais. Et t'as l'air en forme. Et non, mais t'as raison. Et d'ailleurs, je pense que l'anonymat, en fait, il y a un certain anonymat dans le fait de parler à une intelligence artificielle. Il y a un secret professionnel qui est encore plus infaillible que le secret médical, par exemple. Mm-hmm. Je trouve dans le fait de parler à un robot.
On revient dans le confessionnal, en fait.
C'est ça. Au contraire. Non, c'est logué, dans tous les sens.
Fibre.
Je dirais malheureusement que l'IA de demain sera beaucoup plus intéressante à se confier qu'à un humain, parce que les humains sont assez médiocres et assez décevants en général. Non mais c'est vrai, il faut le dire. Et quand vous avez un problème, eux ils ont pas envie d'écouter votre problème, ils écoutent quand même.
Ouais, c'est ça.
Ils ont pas les bonnes réponses, ils ont pas l'expérience de la vie, tu vois, ils vous disent n'importe quoi. Donc s'il y a une IA qui a déjà traité 1 million de problèmes dans la journée, qui sait exactement, qui va vous faire parfaitement, il va transformer votre vie et vous rendre un mec heureux et productif. Voilà, on est dans la dystopie.
Mais ça veut dire que techniquement cette IA, elle pourrait dire, écoute, je vois pas de solution, jette-toi sous un train. Si elle est vraiment,
non, parce
tu
que
vois,
les lois, ça c'est quand tu l'auras
programmée. Les lois de la robotique font que elle n'a pas le droit.
Ah d'accord, ok. Mets-toi juste sur les rails. Peut-être qu'il y aura un train, peut-être pas.
Pour revenir sur la dernière remarque de monsieur et qui rejoint un peu la remarque qu'on a tout à l'heure sur un autre sujet, est-ce que c'est aussi peut-être plus facile de parler avec une IA que d'appeler ou de discuter avec une vraie personne? Parce qu'à un moment, comme tu dis, une IA, c'est simple parce qu'elle ne te juge pas, elle a des bonnes réponses.
Elle ne te juge pas, elle n'a pas forcément pitié. Tu sais que tu parles à quelqu'un d'impersonnel qui va t'apporter la meilleure réponse possible selon sa base de données. Donc t'as une, je sais pas, j'ai jamais fait l'expérience pour l'instant, mais je pense que ça peut être intéressant.
Et chez tous les devs, tu vois, qui administrent la base de données, ils sont là, oh putain, regarde la requête. Ah c'est qui ce mec-là? Vas-y, imprime, on le met sur le mur dans le hall.
Très bien, on reste sur ce problème. En tout cas, on peut applaudir Sylvain pour cette chronique. On espère que vous y réfléchirez.
Studio 404, l'émission de société numérique.
On vous remercie beaucoup, c'est la fin de cette émission. Vous avez été très très nombreux à venir nous rejoindre pour bruncher et discuter et débattre, et vous avez été très bavards. C'est bien, c'est comme une IA en fait, ce public s'améliore à chaque fois, tu vois, il est. En plus, on commence à s'attacher. C'est bien, Daz, non?
Ouais, mais c'est des vrais gens, par contre.
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que t'es sûr?
Merde.
Est-ce que t'es sûr? Allez, on enlève tous nos lunettes de réalité virtuelle. On se retrouve le mois prochain. On remercie encore grandement nos partenaires du Tank pour nous avoir accueillis. Merci, Damien. Merci aussi au Chat Livre de nous avoir régalés. Et en tout cas, on se retrouve sur SoundCloud et toutes nos plateformes. On essaiera de discuter ensemble.
Et merci à vous, public.
Merci beaucoup.
Allez, merci beaucoup.
Salut.
Merci.
À la prochaine.
Bonne nuit. Thank you.